Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Florent Moussy.
Sur RMC, c'est parti pour l'Intégral Sport jusqu'à 15h avant de laisser la main à Christophe Cessieux pour vivre l'événement du jour. Le début du tournoi destination pour l'équipe de France. Coup d'envoi à 16h pour cette Italie-France. Ce sera évidemment à suivre en direct sur RMC avec Denis Charvet. Les dernières infos et les enjeux, c'est dans quelques instants dans l'Intégral Sport. Sébastien Piocelle, membre de la Dream Team Foot d'RMC, est avec moi aujourd'hui. Salut Seb, je suis très contente de te retrouver.
Salut, moi aussi.
Ça va ?
Ouais, très bien.
Eh ben, écoute, dans quelques instants, on va suivre ensemble la 22e journée de la Ligue 1. Ça vient de partir entre Clermont et Monaco. La SM n'en finit plus de grimper au classement et veut se rapprocher du podium. Voilà l'objectif aujourd'hui des Monégasques. Et on va tout de suite enfiler vers Clermont, retrouver Damien Tardieu parce que c'est parti face à Monaco. Salut Damien.
Salut Flora, salut Seb, salut et salut Damien. Tout le monde. Bienvenue au pied des volcans, au stade Gabriel Montpied. Belle affluence, même si ça sera pas plein. Cet après-midi, le coup d'envoi a été donné il y a 45 secondes par Takumi Minamino pour l'AS Monaco. Flora, tu l'as dit, l'enjeu pour les Monégasques, c'est de bien rester dans le coup là pour ce top 3. Et puis les Clermontois d'étirer leur série d'invincibilité. 5 matchs sans défaite, ça ne leur est jamais arrivé. Une minute de jeu, 0-0.
Ouais, et on a eu en plus le coup d'envoi a été donné par une personnalité sportive. Hein.
Exactement, avec Renaud Lavillény. On sait qu'il est établi ici à Clermont depuis quelques années. Il est surtout organisateur du All-Star Perche, grand rendez-vous de Perche. Ce sera à la fin du mois de février à la Maison des Sports ici à Clermont. Est attendu notamment Mondo Duplantis, rien que ça, le recordman du monde qui a claqué 6-10 pour son entrée. Et on murmure, si et là, qu'il y aura peut-être une tentative de record du monde. On l'espère évidemment, ça sera à Clermont. Il est venu un petit peu faire la promo de ce rendez-vous. Le mois de février sera un mois d'athlée d'ailleurs à Clermont avec les championnats de France en salle d'athlée également, qui arrive avant le All-Star Perche. Il y aura un bon coup franc pour Monaco là. Flora, Seb, 1 minute 40
ouais,
de jeu.
On va suivre ça avec toi Damien.
À l'angle des 16 mètres suite à une faute clermontoise, on fera les compos d'ici quelques instants. C'est Caio Henrique qui a posé le ballon. On est vraiment à l'angle de la surface de réparation là pour les Monégasques. Première opportunité peut-être pour ces Monégasques qui à l'extérieur ont déjà gagné 6 fois cette saison. Ils n'ont perdu qu'une fois, c'était à Lille. Ils n'ont perdu d'ailleurs qu'un de leurs 15 derniers déplacements. Voilà, ça donne un petit peu l'importance de l'équipe de Monaco en déplacement. C'est une équipe très efficace qui marque en plus à chaque fois. Et le bon coup franc là peut-être pour les Monégasques, c'est Golovin qui feinte finalement pour Caio Henrique. Le ballon dans les 16 mètres et le ballon est au fond. Le voilà, le but Monégasque après 2 minutes. Est-ce que c'est Maripane qui marque, me semble-t-il, sur ce coup franc parfaitement frappé par Caio Henrique au point de pénalty. On discute côté Clermontois, notamment Moridio, il n'est pas content du placement de ses défenseurs. Il me semble bien que c'est Maripane qui marque.
C'est Maripane, ouais.
Et ça fait 1-0 pour Monaco après 2 minutes 30 de jeu ici au Montpied.
Ouais, c'est bon, on n'a même pas eu le temps de t'entendre encore une fois qu'il y a but déjà pour les Monégasques. C'est pas mal joué ça, ce coup franc avec la feinte de Golovin pour le tirer. Hein.
Ouais, ça a pu gêner un petit peu les défenseurs, mais ça manque quand même d'agressivité. On voit Maripane, il passe bien entre les deux défenseurs. Il a.
Est-ce que c'est pas contré par un défenseur,
il me semble.
C'est Vietesca qui doit le mettre contre son coup.
Mais après, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à voir Jacobs titulaire à gauche. Finalement, c'est Caio Henrique. On voit la qualité aussi de ses coups de pied arrêtés. C'est important pour cette équipe monégasque. Et on a vu aussi la faute du jeune Maurer. Cette faute peut être inutile au départ, ça coûte cher.
Tiens, fais-nous un petit rappel d'ailleurs des compos des deux équipes, Damien.
Oui, alors on va commencer peut-être par les monégasques avec Ben Yedder sur le banc. Ça, c'est à noter. Ben Seguir est absent. Il est blessé au pied, la pépite monégasque. C'est quand même une équipe qui a évidemment fière allure, avec dans les buts Alexander Nubel, une défense centrale d'Izazi Maripane, donc Caio Henrique, comme l'a dit Seb, à gauche, Aguilar à droite, un duo de récupérateurs Camara Fofana, Crépin Diata pour animer le jeu côté droit, Golovin côté gauche, et puis devant Mbolo et Minamino, donc qui est titulaire, le japonais décevant depuis le début de la saison côté clermontois. Alors que là on va peut-être suivre cette action de Golovin, mais la bonne intervention de Vietesca. Il y a beaucoup d'absents côté Clermont, certes il y a 5 matchs sans défaite, mais il y a beaucoup d'absents. Seydou est blessé au ménisque et on craint une blessure qui l'éloigne des terrains pendant plusieurs semaines. Ça, c'est un gros coup dur. Comme Gastien également, toujours blessé au mollet qui ne revient pas. Rachani est malade, ça fait 3 titulaires habituels qui ne sont pas là. Du coup, Moridio dans les buts, une défense à 3 comme c'est le cas depuis le début de la saison quasiment, avec Vietesca Ogier donc qui remplace place Seydou. Et puis Coffrier, Borges pour le rôle de piston gauche, à droite Alvina, Magnin et Kawi à la récupération. Seb en parlait aussi, la première titularisation à 18 ans, Diamond Maurer. Il jouait dans l'équipe réserve du Clermont Foot depuis le début de la saison. Tout jeune joueur international marocain U20 qui est titulaire avec Cham, qui sont deux juste derrière l'attaquant Gretjon Kiey. 5 minutes de jeu et c'est Monaco qui mène donc 1-0. Le but, on verra à qui il est accordé, mais sans doute à Vietesca contre son camp.
Ouais, c'est vrai. Oui, a priori, c'est Vitesca. On a vu s'afficher Damien Seb. C'est vrai que c'est une entame de match idéale pour les Monégasques, dans toujours cette recherche de se rapprocher du haut du classement et du podium surtout.
Ouais, on voit que ça avance très très vite devant. Donc forcément, c'est une équipe de Clermont qui n'a pas perdu depuis 5 rencontres, mais qui ne marque pas beaucoup de buts. Une entame pareille, c'est idéal pour eux, surtout que c'est une équipe qui se projette rapidement vers l'avant, qui a une grosse efficacité. Et même quand on change la doublette offensive, on marque là sur coup de pied arrêté. Donc idéal pour eux. Après, attention, clairement, il y a encore du temps. C'est une équipe qui est difficile à bouger. Il faudra qu'ils soient un peu plus haut. En tout cas, là, on les voit, ils sont quand même assez bas depuis le début de la rencontre.
Ouais, effectivement, on va voir ce que ça donne pour les Clermontois dans ce match. Il y a encore tôt 5 minutes de jeu. C'est l'événement, hein. Aujourd'hui, évidemment, l'entrée en lice de l'équipe de France dans le tournoi des 6 nations. Italie-France, coup d'envoi à 16h tout à l'heure. On va tout de suite aller à Rome retrouver Wilfried Templier qui va commenter cette rencontre tout à l'heure avec Christophe Cessieu et Denis Charvet. Salut Wilfried.
Salut Flora, bonjour Seb, bonjour à toutes et à tous.
Alors rappelle-nous déjà cette composition du 15 de France qu'on connaît depuis quelques jours maintenant, mais c'est important d'avoir les idées bien en place avant le coup d'envoi tout à l'heure.
Avec la première ligne, Cyril Bailly, Julien Marchand, Huini Antonio. Deuxième ligne, Thibaut Flamand, Paul Willemse. Troisième ligne, Anthony Gelon chez Charles Olivon qui entoure Grégory Aldrit en troisième ligne centre. La charnière, Antoine Dupont, le capitaine avec Romain Tamac. Au centre, Yoram Moefana et Gaël Ficou. À l'aile droite, Damien Penaud. À l'aile gauche, pour sa première sélection, le Lyonnais Ethan Dumortier. Et à l'arrière, le Toulousain Thomas Ramos, les remplaçants Barlow, Wardi, Falatea, Taofi Finoua, Lavo, Makalou, Le Garec, qui normalement devrait vivre aussi le Racingman de sa première sélection, et Mathieu Jalibert.
Une certaine domination toulousaine quand même dans ce 15 de France.
7 Toulousains, effectivement, 7 Toulousains dans l'équipe. On a 4 Rochelais aussi, 3 joueurs de l'UBB, mais effectivement, Toulouse qui domine de la tête et des épaules le top 14, qualifié pour les 8e de finale de Coupe d'Europe, puis traditionnellement depuis des années, la coloration toulousaine de l'équipe de France, évidemment.
Un mot, Wilfried, tiens, sur la charnière, encore une fois reconduit aujourd'hui par Fabien Galthié, Romain Tamac et Antoine Dupont. C'est un record d'association en équipe de France.
Et oui, ils ont dépassé Parra et Lopez. Effectivement, 22 sélections ensemble, c'est pas énorme non plus, mais on a beaucoup bougé ces dernières années avant le début de l'ère Galthié au niveau des charnières, qui ont été faites et défaites en équipe de France. On est loin de l'association Murray-Sexton du côté de l'Irlande, qui a plus de 60 sélections communes, mais quand même, ce sont les patrons, on va dire, de cette équipe de France, depuis 2020 que Galthié a repris cette équipe, notamment Antoine Dupont, et ça tombe bien, on parlait des Toulousains, ils jouent ensemble en club, donc ils ont des repères communs, et ce sont deux joueurs très talentueux, vraiment les donneurs d'ordre de cette équipe pour lancer le jeu. Depuis des années, ça marche plutôt bien, et on les laisse en place. Flora, la question était de savoir, à un moment, à l'automne, quand Ntamak était un peu moins bien, s'il fallait mettre Jalibert, mais Galthié n'a jamais touché à sa charnière. Ce sont les deux titulaires indéboulonnables de la charnière, Antoine Dupont et Romain Tamac.
Ouais, confiance totale dans cette charnière pour Fabien Galthié, qui lance aussi aujourd'hui un petit nouveau, t'en as parlé, première sélection, première titularisation pour Ethan Dumortier.
Ouais, Ethan Dumortier, meilleur marqueur du top 14 avec 8 essais. Jeune, 22 ans, qui est passé par les sélections de jeunes en France, qui a sa chance, qui depuis deux semaines au stage de préparation à Cap-Breton, a été installé à cette aile gauche. Alors, on savait pas s'il allait être titulaire, puisque en début de semaine, Gabin Villière, le Toulonnais, est revenu après avoir joué 60 minutes et être revenu de blessure. Mais malheureusement pour lui, Gabin Villière s'est blessé assez gravement en plus mercredi lors de l'entraînement à haute intensité, fracture du péroné. C'est reparti pour 3-4 mois d'absence pour le pauvre Gabin Villière, et du coup le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il est venu chercher le maillot quand même, à me dire le staff du 15 de France. Et Ethan Dumortier, assez bon sur les ballons hauts, va vivre son baptême du feu ici en Italie, baptême du feu sous un grand soleil, un ciel bleu magnifique ici à Rome. Il y aura une après-midi extraordinaire pour le coup d'envoi à 16h.
Tu veux nous narguer un petit peu, Wilfried, avec ton beau temps romain, tu vas en profiter, t'as bien raison. Décris-nous un petit peu, tiens, les qualités d'Ethan Dumortier, qu'est-ce qu'il peut apporter de différent à cette équipe de France?
Alors c'est un joueur grand, hein, plus d'1m90, plus de 90 kilos, assez puissant, assez rapide, Ethan Dumortier. Et je vous le disais aussi, hein, sous ce qui est très important au niveau international, notamment plus quand on va aller jouer des nations comme l'Irlande, comme l'Angleterre, c'est de résister à la pression sous les coups de pied adverses, sous les ballons hauts. C'est beaucoup d'équipes ont comme l'équipe de France, hein, ont un jeu de pression, d'occupation comme ça. Et donc il est reconnu pour ses qualités, mais voilà, il va être éprouvé là à ce niveau-là, lancé dans le grand bain. Et on espère pour lui que ça va aller, parce qu'une première sélection c'est toujours particulier, hein. On passe à un autre niveau, le niveau international, comme le dit Fabien Galthié, c'est le haut permanent. Donc on verra cet après-midi. Il commence par l'Italie, entre guillemets, un peu plus en douceur par rapport à la semaine prochaine, samedi prochain en Irlande.
Ouais, oui, parce que c'est vrai qu'il y a cette échéance évidemment dans toutes les têtes. On a vu hier l'Irlande justement s'imposer avec une victoire donc bonifiée face au Pays de Galles. Du coup on attend la réponse des Bleus aujourd'hui. Victoire bonifiée presque obligatoire aujourd'hui face à l'Italie.
Pas presque, obligatoire, ouais. Vu ce qu'a fait l'Irlande. Comme tu l'as dit, ils ont gagné avec le bonus offensif, c'est-à-dire marqué 4 essais, au moins 4 essais. Très très impressionnant, les Irlandais, 34-10. La France est tenante du titre du Grand Chelem, mais l'Irlande est numéro 1 au ranking, au classement mondial, parce que sur l'année ils ont aussi fait des perfs. L'année dernière au mois de juin, ils ont été gagnés une tournée en Nouvelle-Zélande, c'était historique. Ils ont battu les champions, comme les Français ont battu les champions du monde sud-africain à l'automne. Et puis la France est la seule équipe qui les a fait chuter l'année dernière lors du tournoi pour aller chercher le Grand Chelem. Donc ils sont revanchards, les Irlandais. Et samedi prochain, la France aura que 6 jours de repos contre 7 pour les Irlandais. Ça promet un sommet extraordinaire à Dublin entre l'Irlande et la France, mais avant il faut s'imposer en Italie.
Ben oui, justement tu parles de ce match qui est évidemment aujourd'hui. Fabien Galthié a parlé de match piège aujourd'hui face aux Italiens. Est-ce que c'est parce que le jeu des Italiens peut nous gêner, ou alors c'est justement parce qu'il y a déjà l'Irlande dans un coin de la tête?
Un peu des deux. Disons que l'Italie est un peu mieux sur l'année dernière. Ils ont fait une perf historique, gagné au Pays de Galles, et ils ont mis fin à 36 défaites de suite dans le tournoi des 6 nations. Mais ils ont confirmé ensuite à l'automne en battant largement les Samoa, en s'imposant contre l'Australie aussi. Une nouvelle victoire historique pour eux. Ils n'avaient jamais battu une nation du Sud. Donc il faut se méfier des Italiens. La France est au-dessus, mais il faut se méfier des Italiens. Et c'est toujours un premier match. Voilà. Alors c'est de moins en moins français, c'est-à-dire de avoir la machine qui se lance, parce que cette équipe-là fait pas comme ses comme ses prédécesseuses. Franchement, elle ne doute de rien normalement, mais il y a toujours une mise en route dans le tournoi. Et voilà, attention au piège, bien assuré, comme tu dis, ne pas avoir l'Irlande dans un coin de la tête, parce que ce sera un sommet, comme il y a eu les Blacks, comme il y a eu l'Afrique du Sud. Ce sera un vrai sommet de cette année 2023.
Merci beaucoup, Wilfried. On te laisse aller manger une petite pizza romaine là en terrasse sous le soleil. Romain, tu vas être bien. Et on te retrouve à partir de 15h évidemment sur AMC avec Christophe Cessieux, Denis Charvet pour l'avant-match, et 16h pour le coup d'envoi de cette Italie-France, l'entrée en lice du 15 de France dans ce tournoi des 6 nations. Merci beaucoup, Wilfried.
À tout à l'heure.
Allez, on va retourner à Sepp Piocel avec, du côté de Clermont, retrouver Damien Tardieu. On suit évidemment la 22e journée de Ligue 1. C'est très bien parti dans ce match pour les Monégasques, Damien.
Ouais, 1-0 pour Monaco. Le but de Vietesca contre son camp à la deuxième. Et attention, contre la Monégasque avec Minamino qui va décaler Golovin sur le côté gauche. Golovin dans la surface. Le passement de jambe, la frappe de Golovin. Et le but au deuxième poteau de Crépin Diata, me semble-t-il, qui est venu couper le ballon. C'est Mbolo plutôt, qui est venu marquer de la tête. Oui, c'est Mbolo. Ça fait 2-0 pour Monaco après 13 minutes. Le gros travail de Golovin qui a mystifié la défense avec son passement de jambe. Le centre est parfait. Mbolo est tout seul au deuxième poteau. 2-0 pour Monaco.
Ah, ça marche très fort offensivement quand même pour les Monégasques. Là, l'action, elle est super bien menée, celle.
Ouais, récupération dans leur camp. Et puis après, c'est vrai que Minamino décale bien Golovin. Après, il fait tout le travail, le russe. Et puis, ils sont même deux à aller couper la trajectoire. Ouais. Il y avait le 3 contre 3 au début de l'action. On parlait de réalisme du côté des Monégas. C'est vraiment ça. Il y a une qualité offensive impressionnante. Et voilà, c'est compliqué maintenant pour Clermont, qui était un tout petit peu mieux là, dans la possession du ballon. Mais en face, c'est redoutable d'efficacité.
Ouais, c'est vrai, Damien. Après, voilà, 2-0 pour Monaco. On se souvient aussi que lors du dernier match face à Auxerre, les Monégasques menaient 2-0 tranquillement, puis se sont fait un petit peu plus peur avant de s'imposer quand même. Mais c'est vrai que là, pour le moment, ils sont très bien rentrés dans ce match.
Oui, effectivement. Et comme le disait Seb, Clermont arrivait quand même à tenir le ballon, hein. Après 5-6 premières minutes compliquées, depuis 4-5 minutes, ça allait un petit peu mieux. Ils s'étaient pas procuré d'occasion, mais ils s'étaient rassurés avec de la possession. Mais là, comme à la parade, hein, véritablement, ils sont deux à pouvoir conclure. Minamino qui est tout près de toucher ce ballon, et Mbolo absolument seul. Sont 12 12e but de la saison à des Monégasques qui sont impressionnants à l'extérieur. Une seule défaite, je le disais tout à l'heure, depuis le début de la saison, c'était à Lille. Et attention, ils vont peut-être avoir une nouvelle opportunité. Ce sera un peu trop long, ce sera récupéré par Moridio. Une seule défaite donc cette saison à l'extérieur pour les Monégasques. Ils ont déjà gagné 6 fois à Strasbourg, à Nice, à Reims, à Montpellier, à Auxerre et à Toulouse. Hors de leur base, ils marquent en plus à chaque fois. Et là, ça fait déjà 2 buts au bout de 12 minutes, évidemment, pour Clermont qui était très solide ces derniers temps avec un bon 0-0 obtenu notamment à Lille dans la semaine. C'est compliqué, mais franchement, les absents et notamment l'absence de Seydou et de Gatien, ce sont quand même deux éléments clés dans cette équipe clermontoise.
C'est des joueurs axiaux avec de l'expérience, forcément dans l'équilibre d'équipe, ils sont hyper importants quand ils sont pas là les deux en même temps. C'est pas évident. Ogier qui manque un peu de rythme aussi là, qui revient dans cette défense à 3. Voilà, tout ça fait que au-delà de la qualité monégasque, fait que le début de match est très compliqué pour les Auvergnats.
Exactement, 2-0 donc pour Monaco après 14 minutes. Et le problème pour Clermont, c'est que Gatien était blessé au départ, ça devait être que pour un match, et puis au final il revient pas, douleur au mollet qui a priori est dure un petit peu. On prend pas de risque non plus.
Il y avait Kofi aussi qui était incertain jusqu'au dernier moment.
Ouais, qui était un petit peu fait mal aux ischios me semble-t-il cette semaine à Lille, qui est un élément aussi important. Et puis Seydou, il coupe tellement de situations chaudes grâce à sa vitesse notamment, et puis il a une vraie qualité de relance. Voilà, Ogier est capitaine et un garçon excellent dans le groupe, mais il n'a pas les mêmes qualités évidemment qu'un Alidou Seydou. Et pour l'instant, Clermont est en difficulté. Déjà avec une équipe type, forcément il y a quand même une différence de niveau entre les deux, mais là avec ces absents là et avec une équipe monégasque qui est rentrée dans le match comme il le fallait, c'est compliqué. Un quart d'heure de jeu et ça fait donc 2-0 pour les hommes de la Principauté.
Parfaitement lancé dans ce match, les Monégasques face à Clermont. 13h15 sur RMC dans l'Intégral Sport. On revient dans quelques instants avec Sepp Piocel pour suivre la suite de cette rencontre. Et puis, on sera du côté de Paris-Bercy pour le combat de Teddy Riner au Paris Grand Slam. On va vous faire vivre tout ça. Puis, on vous parlera aussi des championnats du monde de ski alpin qui débutent lundi, cérémonie d'ouverture aujourd'hui. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi. 13h17 sur RMC. Merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport avec Sébastien Piocel. On suit la 22e journée de Ligue 1. Le déplacement de Monaco à Clermont avec Damien Tardieu. Et ça se passe à merveille dans ce début de match pour l'ASM.
Ouais, 2-0 pour Monaco qui continue d'attaquer avec Caio Henrique qui va frapper du gauche. Et Moridio qui va se détendre sur sa gauche pour stopper en deux temps ce ballon. Mais c'est trop facile pour l'instant pour les Monégasques. Ils sont vraiment très appliqués. En plus, Seb, on les voit, j'ai vu tout à l'heure notamment Golovin faire un sprint énorme sur toute la largeur du terrain pour faire du pressing, finalement, en laissant vraiment, vraiment concernés.
Je pense aussi, tout à l'heure, Flora a parlé du match d'Auxerre. Ouais. Ils veulent pas retomber là-dedans, c'est-à-dire que s'ils peuvent marquer un troisième but, assommer cette équipe de Clermont, et ils en ont la possibilité, on l'a vu là encore avec Caio Henrique qui tente sa chance. Après, dans le placement, Minamino, il leur fait pas mal de mal, il est assez bas, il est entre les deux lignes. Alors bon, je dis pas qu'il faut changer de système, parce que depuis le début de saison, il joue à trois défenseurs. Mais c'est vrai que face à ce genre de joueur-là, t'as presque un défenseur qui te sert à rien, ou alors qui vient à l'intérieur et qui libère des espaces. Je trouve que dans le placement, ils sont dépassés. C'est pas dans l'envie, mais dans le placement, ils sont dépassés, ouais. Les Clermontois.
Ils ont du mal à résoudre l'équation Minamino, effectivement, qui décroche beaucoup, qui vient, comme tu le disais, se placer entre les lignes. Il touche beaucoup de ballons, véritablement. On a vraiment une seule pointe avec Mbolo et il joue à trois milieux offensifs juste derrière Golovin à gauche, Diata à droite. Et Minamino, il joue vraiment 10 là pour le coup, et pour l'instant effectivement clairement on n'a pas résolu cette difficulté là. Il est souvent sur l'action du deuxième but, c'est lui qui est à l'origine. Minamino qui a été pas mal critiqué depuis son arrivée, l'ancien joueur de Liverpool, il n'a pas vraiment convaincu.
Oui, à juste titre. Pas toujours là, étincelant.
Là pour le coup effectivement ces 19 premières minutes sont de qualité. Et côté clermontois, c'est difficile. Ils vont peut-être pouvoir attaquer là les Auvergnats avec Greg John Kay qui cherche une solution. Il y a un crochet peut-être de trop. Il va quand même pouvoir écarter sur Cham là-bas sur le côté droit, on est à une trentaine de mètres des buts Monégas, pas de solution. Cham, il va essayer le gelon, ce ballon vers Kiey et ça va passer devant tout le monde finalement, et ça va sortir en sortie de but. 19 minutes 30 au Montpied, c'est Monaco qui mène 2-0.
On en profite, messieurs, pour parler demain du début des championnats du monde de ski alpin en France. Et dès ce soir à 18h45, cérémonie d'ouverture. Ça se passe à Méribel, Courchevel, où on va retrouver Arnaud Souk et Sébastien Amier, notre vice-champion olympique de slalom et membre de la Dream Team d'RMC. Salut, messieurs.
Salut, les amis.
Salut, Flora. Bonjour à tous.
On va s'intéresser, messieurs, à l'équipe de France, évidemment. Arnaud, une seule victoire et 6 podiums depuis le début de la saison en Coupe du Monde. C'est vrai que la confiance, elle a quand même déjà été meilleure chez les Bleus avant le début des championnats du monde comme ça.
Oui, oui, c'est vrai qu'on est déjà arrivé un petit peu plus en confiance sur des championnats du monde, mais il y a aussi certaines fois où on est arrivé en confiance et où certains skieurs ont fait le zéro pointé. Je pense notamment à Alexis Pinturo à Saint-Moritz en 2017. Et puis à l'inverse, l'an passé, il y a deux ans, à Cortina d'Ampezzo, Mathieu Fèvre n'avait pas du tout de confiance quand il est arrivé au championnat du monde et finalement il s'est retrouvé à repartir avec deux médailles d'or. Donc voilà, la réalité d'une saison, d'un hiver est-elle celle que l'on pourra constater pendant cette quinzaine de Méribel Courchevel? Ça reste quand même à déterminer encore.
Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que Bastoun aussi, qu'il y a deux ans, il y avait cinq médailles pour les Bleus au championnat du monde, dont deux en or. On a un petit peu de mal à envisager que les Bleus puissent faire aussi bien cette année quand même devant leur public.
Eh oui, il ne faut pas se voiler la face, ça va être compliqué, mais en tout cas, l'événement arrive, donc on ne sait pas. Et ça, c'est aussi l'incertitude et la beauté du sport de haut niveau. Effectivement, après les résultats de début de saison, il y a eu des victoires, il y a eu des podiums, il y a eu des places d'honneur. Il faut aussi retenir que beaucoup d'athlètes étrangers ont monopolisé les podiums et les victoires. Donc, il restait pas beaucoup de places accessibles pour les autres coureurs. Mais en tout cas, sur la course d'un jour, sur l'événement d'un jour, à Courchevel, les skieurs français, avec le public français, je pense que ça aussi, ça peut créer une dynamique de groupe. Et puis voilà, il faudra voir comment l'événement commence en début de semaine, dès demain, pour rentrer dans le vif du sujet et peut-être libérer tous les coureurs jour après jour pour chercher le plus de médailles.
Justement, Bastoun, tu parles de ce public français devant lequel les Bleus vont évoluer. Est-ce que ça transcende quand on est athlète comme ça, ça transcende ou alors ça met aussi beaucoup de pression sur les épaules? Comment tu le vivais, toi?
Ouais, je pense qu'il y a les deux. Alors moi, j'ai jamais eu la chance de courir un grand événement chez moi à domicile en France. Là, c'est l'occasion rêvée pour certains athlètes, pour certains locaux de pouvoir courir chez eux. Je pense à Alexis qui habite au pied de la piste. Voilà, ça peut dynamiser, ça peut vraiment aider, porter les athlètes. Alors forcément, quand on est au départ, on pense pas à tout ça, mais on peut avoir l'adrénaline positive par cet enjeu-là, mais peut-être aussi un peu l'adrénaline négative, et c'est toujours délicat de se mettre à la place de l'athlète dans des moments comme ça. Mais en tout cas, je pense, et tout a été fait aussi et pensé pour que ça aide les athlètes français à aller chercher ces médailles.
Ouais, Arnaud, l'homme en forme, côté tricolore de ce début de saison, c'est évidemment Clément Noël, seul français victorieux cette saison en Coupe du Monde.
Oui, qui souffle le chaud et le froid, comme on a pu le voir hier lors du slalom de Chamonix. Il a fait une superbe première manche. On pensait que ce slalom lui était promis. Et puis finalement, en deuxième manche, il a enfourché. Mais c'est un petit peu à l'image de sa saison. C'est-à-dire qu'on a une certitude avec Clément Noël, c'est que le ski est là. Il fait partie aujourd'hui des tout meilleurs slalomeurs de la planète. Il l'a prouvé en s'imposant à Stadming, qui est le slalom le plus couru de la saison, le plus disputé, celui que tous les slalomeurs veulent gagner. C'est lui qui l'a gagné. Il est champion olympique en titre. Et puis c'est vrai, on a aussi observé que c'était un ski avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de risques de la part de Clément Noël. Il a du mal à gagner en régularité. Il estime que s'il était plus régulier, il serait peut-être aussi moins rapide sur la piste. Donc il n'a pas envie d'être forcément plus régulier. Il préférerait évidemment être beaucoup plus régulier, mais surtout lui, ce qui l'importe, c'est de skier full gas. Et on sait que s'il skie full gas, il aura vraiment une étiquette de favori pour le slalom qui se déroulera le dernier jour des mondiaux dans 15 jours désormais.
Ouais, le slalom que tu connais parfaitement, Bastoun, et c'est vrai que c'est une discipline qui est tellement exigeante. La moindre erreur peut évidemment coûter très très cher et ça peut se terminer en une seconde, et on l'a vu, comme l'a dit Arnaud, là, c'était le cas pour Clément Noël à Chamonix.
Oui, c'est tellement exigeant, ça joue à tellement peu de millimètres et de centièmes que si on n'est pas dans le vif du sujet, on passe à côté de sa manche. On l'a encore vu hier sur cette deuxième manche qui était très compliquée, avec une remontée exceptionnelle du Grec qui est venu chercher cette deuxième place. Donc c'est ouvert aussi à beaucoup d'athlètes. Mais on voit aussi que beaucoup de favoris sont passés à la trappe. On a vu Christofferson qui jouait, lui, à double tableau, puisqu'il jouait aussi la victoire, mais aussi le maillot rouge du leader de la Coupe du Monde de slalom. Et il a enfourché, parti à la faute. On a vu de nombreux têtes d'affiche sortir. Et le slalom, même quand on est en confiance, il est toujours très compliqué à appréhender. Parce que quand on fait une première manche qu'on la gagne, on aimerait être comme en descente ou en super G, avoir qu'une seule manche. Mais malheureusement, en slalom, il y en a deux et il faut finir le travail. Et le travail n'est pas fini qu'après la première manche, et c'est ça qui est compliqué, oui. Mais l'excès de confiance, on l'a jamais en plus en slalom. On a vu Clément faire du très grand ski hier matin. Il l'a encore montré que quand les conditions sont bonnes et qu'il est vraiment à l'attaque sur ses skis, il est capable de gagner. Chose qu'il a essayé de mettre en place lors du deuxième tracé. Mais malheureusement, il est parti à la faute sur le haut pour sortir et ne pas finir cette deuxième manche. Mais voilà, le ski est là, comme dit Arnaud, le ski est là, la confiance sera là et puis il sera au rendez-vous.
13h25 sur AMC, vous êtes bien dans l'Intégral Sport. On est en ce moment en train de suivre la Ligue 1, 2-0 pour Monaco sur la pelouse de Clermont. Et on est avec Arnaud Souk et puis Sébastien Amier pour parler des championnats du monde de ski alpin qui débutent aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture. Arnaud, on va parler des femmes un petit peu parce que c'est vrai qu'on attend souvent Tessa Worley, double championne du monde en géant. Mais il y en a une qui pousse hein, derrière, c'est Romane Miradoli.
Effectivement, alors il faut signaler quand même que Tessa Worley est une spécialiste, hein, tu l'as dit, du slalom géant, là où Romane Miradoli est plutôt une spécialiste des épreuves de vitesse. Donc a priori, elles seront pas trop en confrontation, même si elles se le seront quand même au cours du Super G qui se courra mercredi. Mais bon, on attend quand même un petit peu plus a priori de Romane Miradoli, quoique sur cette épreuve très spécifique hein, du Super G qui allie à la fois vitesse et grande technique. Mais c'est vrai que Romane Miradoli, eh bien voilà, elle a remporté son premier succès en Coupe du Monde devant Michaela Schifrin et Lara Gut. C'était à Lanzer High 2 en tout début d'année 2022. Elle a récemment monté, elle est récemment montée sur un podium à Saint-Moritz également en Super G. Voilà, c'est une fille qui a mis un petit peu de temps à confirmer tout le bien qu'on pensait d'elle. Elle s'était aussi blessée un petit peu sérieusement il y a 2 ans, ce qui l'avait obligé à s'arrêter plusieurs mois. Et voilà, elle est revenue vraiment avec des très très bonnes intentions. Elle a réalisé une superbe année 2022 et on a envie de penser qu'elle puisse être l'une des outsiders, même si c'est vrai que voilà, dans cette discipline du Super G, il y a quand même beaucoup de filles qui peuvent prétendre à monter sur le podium. Mais Romane Miradoli, il faudra la surveiller de près. En plus, elle court quasiment chez elle puisqu'elle est de Flaine, donc pas très très loin d'ici.
Ouais, et un mot quand même, Bastoun, avec toi des favoris, parce que les favoris dans ces championnats du monde, bah, ils ne sont pas français malheureusement.
Non, ils sont pas français, mais on en a quand même quelques têtes d'affiche favoris dans des disciplines. Et ben, il faudra retenir chez les garçons, bien sûr, Odermatt, hein, qu'on attend vraiment pour éclore vraiment sa chasse aux médailles, hein, puisque voilà, il est déjà champion olympique, mais maintenant sur les championnats du monde, il en a encore pas pris. Le Norvégien, bien sûr, Kilde, qui sera un des favoris sur les disciplines de vitesse. Les jeunes Norvégiens avec Bratton et McGrath qui seront là dans plusieurs disciplines aussi. Il faudra surtout les surveiller. On sait que les Norvégiens sont des ogres de la médaille aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques. Et puis chez les filles, bien sûr, bah, Michaela Schifrin, Lara Gut, Sofia Goggia, Petra Vlhova, tous les grands noms qui rentrent sur les podiums régulièrement en début de saison. Mais attention, les grands événements ont tout le temps des noms surprises. On l'a vu par le passé, c'est tout le temps arrivé. Quoi qu'il arrive dans une discipline, il y a tout le temps un des athlètes qui est potentiellement au départ est capable de faire la médaille, mais qui peut être la surprise aussi.
Merci beaucoup messieurs Arnaud Souk, Sébastien Amier. Ça débute tout à l'heure à 18h45 pour la cérémonie d'ouverture et vous serez évidemment sur AMC tout au long de la compétition pour, on l'espère, nous faire vivre des belles performances de notre équipe de France. Merci messieurs.
Salut Flora.
Nous, on va aller du côté de Paris, Bercy, retrouver Morgane Maury avec une bonne nouvelle dans le Paris Grand Slam pour Teddy Riner. Morgane, salut. Oui,
salut à tous. Teddy Riner qui est en demi-finale du tournoi de Paris. Il vient de battre l'Azerbaïdjanais Gamzat Kanov. C'était son combat le plus dur de la matinée. Il est allé en prolongation, 4 minutes et 31 secondes. Il a fait réagir d'abord avec les bras pour mettre les fesses en arrière de son adversaire et il l'a ensuite fauché au Sotogari. Grand fauchage extérieur pour le faire tomber sur le dos. Un Ouazari qui qualifie Teddy Riner pour les demi-finales du tableau des plus de 100 kilos. Les demi-finales, c'est les prochains rendez-vous. Je vous donne les Français qualifiés. Alpha Diallo en 80 kilos étant en demi-finale. Teddy Riner donc en plus de 100 kilos. Chez les filles, Marie-Ève Gaillet en demi-finale des moins de 70 kilos. Chloé Buttigieg et Audrey Tchuméo en demi-finale des moins de 78 kilos. Et chez les lourdes, on en a parlé tout à l'heure, déception pour Romain Dico, éliminé en quart de finale, qui visera une médaille de bronze.
Alors, je suivrai évidemment tout ça avec toi, Morgane, tout au long de la journée sur RMC. Merci beaucoup. On retourne du côté de Clermont. Je suis toujours avec Sepp Piocel. On va retrouver Damien Tardieu, les Monégasques qui sont bien installés dans ce match et les occasions s'empilent. Hein.
Oui, il y a eu 29 minutes à 2-0 pour Monaco. Il y a eu une tentative là, il y a 2 minutes de Minamino, encore une fois. Petit passement de jambe. Coffrier était un petit peu trop loin. Il a tenté sa chance. C'est venu mourir dans le petit filet de Moridio. Effectivement, les occasions sont monégasques. On sent vraiment qui sont dangereux à chaque fois qu'ils attaquent. Malgré tout, la possession est clermontoise, c'est-à-dire que les Auvergnats arrivent à tenir le ballon quand même jusqu'aux 30 derniers mètres où ça se complique. On voit Seb, le jeune Ayman Morer qui avait eu du mal sur les 10 premières minutes. Il est fautif sur le premier but et il est à l'origine du coup franc qui donne le but à Vietesca. Mais ça va mieux, il a vraiment des qualités. Il a un petit accroché extérieur du pied notamment qui est pas mal.
C'est pour l'instant, c'est le joueur de Clermont qui ressort le plus. Hein. On le voit, il est dynamique, il prend ses responsabilités. Il joue plutôt assez juste. Après, comme tu le disais, dans les 30 derniers mètres, il se passe vraiment rien. Et quand ils repartent de leur camp, par contre, les Monégasques, qui sont de suite dans le pressing, ils essaient de récupérer les ballons assez haut. Pour l'instant, ils sont quand même submergés, même s'ils ont la, même s'ils ont la possession.
Oui, effectivement, avec là à nouveau un ballon mal donné par Crépin Diata et bien protégé par Ayman Morer qui fait beaucoup d'efforts. Hein. En plus, il est généreux. On sent vraiment que dans sa tête, ça devait être.
Il a pris un jaune déjà. Donc souvent dans des jeunes joueurs comme ça, là, 18 ans, tu as pris un jaune.
C'est
parce
très
que
fougueux.
T'es fougueux. Donc attention sur une action peut-être anodine de pas prendre un deuxième. Je souhaite pas forcément.
Ouais, forcément. Mais on sent quand même qu'il s'est libéré dans sa tête après les premières minutes. Il tente des choses. On le voit percuter, comme tu le disais tout à l'heure. Il a des qualité de vitesse et de conduite de balle et avec quelques coups mieux menés, clairement on aurait peut-être pu se montrer dangereux avec une balle récupérée par les Auvergnats au milieu du terrain avec Greg John Kiey qui s'est affalé là par terre. Il a glissé, ouais, la pelouse est moyenne forcément. Mbolo en pivot pour les Monégasques avec maintenant Fofana qui est à l'entrée des 16 mètres, il va décaler là-bas sur le côté gauche Golovin, le dédoublement de Caio Henrique, mais il va revenir sur son pied droit Golovin et le ballon sorti par Vietesca, c'est pas fini. Camara qui va peut-être essayer à 30 mètres, ça va passer au-dessus. Début, mais nouvelle tentative monégasque, 32 minutes de jeu, ça fait 2-0 pour Monaco qui pour l'instant mène parfaitement sa barque pour mettre la pression sur le podium dans cette Ligue 1.
Allez, 13h31 dans l'Intégral Sport sur AMC. On revient dans quelques instants à Gabriel Montpied pour suivre la suite de cette première période entre Clermont et Monaco. Puis on va revenir aussi sur la victoire, la courte victoire du PSG hier soir face à Toulouse, le tout sans Kylian Mbappé. A tout de suite sur AMC.
RMC Intégral Sport,
Flora Messi.
13h33 sur AMC, je suis toujours avec Sébastien Piocel. On suit à la 22e journée de Ligue 1 le déplacement de Monaco à Clermont avec Damien Tardieu. Ça se passe très bien pour les Monégasques qui sont vraiment installés dans ce match, même si les Clermontois là essayent un petit peu de revenir.
Ouais, 2-0 pour Monaco. Clermont cueilli à froid. Deux buts dans le premier quart d'heure. On rappelle Vietesca contre son camp, consécutif à un coup franc avec le ballon touché de la tête par Maripane et Vietesca qui la met au fond. Et puis le deuxième but marqué par Mbolo après un très bon travail sur le côté gauche, côté monégasque. Les Clermontois qui ont 56% de possession, qui pour l'instant peinent à se montrer dangereux, qui se font bouger dans l'impact physique à l'image là de Kawi pris par Fofana. La mauvaise remise de Minamino, heureusement, parce que les Monégasques étaient partis en contre. Il y a la dimension physique, hein, on sent que c'est compliqué aussi évidemment de bouger Mbolo par exemple. Voilà, c'est difficile, Seb.
Pour caler Mbolo, c'est le top. Il fait du bien. Après, ça se passe beaucoup à gauche quand même du côté de Monaco, hein. On voit la doublette Caio Henrique et Golovin, ça fonctionne très très bien. À droite, c'est un peu plus compliqué, il y a peut-être un peu moins de repères aussi pour Aguilar, sachant que Vanderson joue plus régulièrement. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ils baissent pas de pied, hein, les Monégasques. Ils ont vraiment envie d'enfoncer le clou.
C'est vrai, et éviter de se faire des frayeurs comme ils ont pu se le faire contre Auxerre cette semaine. Vanderson blessé au genou qui n'est pas dans le groupe, hein, non plus côté monégasque, avec là les Clermontois qui tentent de repartir avec Coffrier qui sort un petit peu de sa zone et qui va pousser ce ballon avec Greg John Kiey. Il y a du surnombre, le mauvais contrôle de Greg John Kiey alors qu'il y avait un surnombre là-bas sur le côté gauche avec Mohamed Cham notamment, et Kiey qui fait faute derrière sur Golovin. Ça sera un coup franc pour l'AS Monaco. Il y avait un gros coup à jouer pour les Clermontois, et Greg John Kiey qui est a progressé vraiment, hein, lui qui est arrivé l'hiver dernier. Il en est à sa deuxième saison à Clermont. Il a eu vraiment 6 premiers mois compliqués, puis là petit à petit c'est lui qui joue plus que comme Nenandrić, avec des capacités physiques lui aussi hors norme, hein, pour le bouger c'est compliqué. On voit un beau duel avec Dizazi, les deux anciens Rémois qui s'affrontent, et là il avait un bon coup à jouer.
Trois fois qu'il loupe des contrôles,
ouais,
importants,
c'est vrai. C'est dommage dans ces positions là
justement, hein, il pourrait faire du bien à son équipe, donc il faut qu'il s'applique un peu plus.
Ouais, parce que les Clermontois en ont pas eu beaucoup de situations comme celle-là, et ils l'ont gâché. En tout cas, 35 minutes, les Monégasques à nouveau à l'attaque, et les Monégasques qui pour l'instant mènent 2-0. Ils ont fait l'essentiel dans ce début de partie.
On continue de parler Ligue 1. Hier, vous avez vécu sur RMC la victoire du PSG au Parc des Princes face à Toulouse. Une victoire compliquée en 2-1 alors que Paris était mené. Arthur Perrault était au Parc des Princes hier et il est avec nous aujourd'hui. Salut Arthur.
Salut Flora. Salut Sébastien. Bonjour à tous.
On a dit une victoire hier, mais comme depuis le début de 2023, en fait, ça reste poussif quand même pour les Parisiens.
Oui, c'est vrai que c'est un début d'année globalement compliqué pour le Paris Saint-Germain dans ce mois de février totalement fou, avant le 14
le
février
plus dur arrive,
prochain.
Hein.
Oui, voilà, avant le 14 février prochain et le 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern. Christophe Galtier qui avait décidé de revenir à un 4-4-2 en losange. C'est vrai qu'il a été très clair en conférence de presse tout au long de la semaine en disant que le 4-4-2 à plat qu'il a pu tenter ces dernières semaines ne lui apportait absolument pas satisfaction. Voilà pourquoi hier il a fait ce retour au 4-4-2 en losange, avec malgré tout 22 frappes et une possession maîtrisée des Parisiens avec 61,2% de moyenne, mais avec des joueurs qui n'ont pas marqué de points. On peut penser à Carlos Soler qui a une nouvelle fois été en difficulté sur cette rencontre, ou on peut encore penser à Vitinha qui est de plus en plus l'ombre de lui-même comparé à son début de saison avec le Paris Saint-Germain.
Ouais, t'as été surpris toi cette performance du PSG hier, Seb, ou de même juste peut-être du système tactique de Christophe Galtier, ça t'a convaincu ou pas?
Non, système tactique sur le 4-4 dans Lausanne, c'est pas un système évident quand il n'y a pas des joueurs qui sont en confiance, qui se projettent moins. Ouais. Là, Arthur parlait de Soler. Bon, c'est
attention, Molégasque, la frappe, elle est contrée, heureusement, et Moridio va pouvoir s'en saisir sur cette action de Diatta. Toujours 2-0 pour Monaco, 37 minutes.
Soler, c'est un peu l'ombre de lui-même. Enfin, c'est souvent le cas des recrues parisiennes aux avant-postes, puisque c'est des joueurs qui jouent pas beaucoup, qui manquent de repères. Vitinha, on le sent, lui, pour le coup, pas du tout relâché, contraire du début de saison. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il fait, il a eu deux ou trois belles situations où il était à quelques mètres du but, où il déjoue un petit peu, il manque de confiance. Finalement, heureusement qu'il y avait Messi et Hakimi hier sur ce match-là, parce que à l'arrivée, ça ressemblait un petit peu à leur match post-Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est une équipe, forcément, il y a du talent, et à un moment donné, ça passe. Et tant mieux au niveau comptable, parce que quand on voit le calendrier du match de mercredi contre Marseille jusqu'à l'autre match de Marseille en championnat, on va savoir un petit peu, quoi. Et plus le match retour après contre le Bayern. Mais c'est vrai qu'en l'absence de Neymar ou Mbappé,
on voit tout de suite la différence.
Ça peut être compliqué. Et voilà, donc attention déjà à ne pas se faire éliminer dès mercredi, même d'une compétition.
Ouais. Arthur, c'est vrai que Seb parlait de la présence de Lionel Messi, parce que Kylian Mbappé n'était pas là, Neymar n'était pas là. Forcément, tout reposait un petit peu sur les épaules de Lionel Messi, et il a répondu présent, l'argent.
Oui, une nouvelle fois. C'est vrai qu'il avait aussi permis au Paris Saint-Germain de s'imposer face à Montpellier, avant le but en toute fin de match de Warren Zaïre-Emery, qui d'ailleurs a fait une très bonne entrée en jeu hier. Ça mérite d'être précisé.
Les Parisiens, ils ont été plutôt bons.
Quand on regarde le banc de touche, Pembele, Bichabou, Zaïre-Emery, Garbi, Ousni, c'est vrai que récemment, quand ils font leur entrée en jeu, ils sont plutôt intéressants. C'est vrai que Messi répond présent. On peut préciser qu'il en est à ce qu'on peut appeler en basket un double-double, c'est-à-dire 10 buts et 10 passes décisives déjà pour lui en Ligue 1 cette saison. Et voilà, Christophe Galtier lui a confié les clés du camion et il répond présent, évidemment, pour le plus grand bonheur des supporters parisien. Au meilleur des moments, on va dire.
Moi, je le trouve vraiment en mode Coupe du Monde, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà de la qualité du joueur, mais c'est surtout que dans sa personnalité, on sent qu'on a envie de lui donner le ballon, et puis
il prend
ses responsabilités.
Il est impliqué,
voilà, rien à voir avec le Messi de la saison dernière.
Ouais, l'Argentin a brillé hier au Parc des Princes, et quand on écoute Christophe Galtier, tout était fait pour le mettre dans les meilleures dispositions.
Je demande à l'équipe de jouer pour Léo. Je demande à l'équipe de travailler pour Léo. Léo, on doit le libérer de certaines tâches. On doit compenser beaucoup de choses, mais on doit surtout faire en sorte de libérer l'espace dans lequel il est très à l'aise et lui donner le plus rapidement possible le ballon, et après de créer du mouvement, parce que quand il est à la baguette comme ça et qu'il dirige le jeu, il a le sens du dribble, le sens de la passe. Moi, je vais rien vous apprendre, il a le sens du but.
Préserver au mieux Lionel Messi, parce que quand on voit, c'est vrai, l'hécatombe de blessures en ce moment du côté du PSG, Arthur, il y a de quoi être inquiet, et on l'a vu encore hier avec Renato Sanchez. Et alors que ce profil, Seb en a parlé, l'OM PSG en 8e de la Coupe de France mercredi.
Ouais, c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle de plus pour le Paris Saint-Germain, avec une infirmerie qui est déjà bien pleine. La sortie hier soir sur blessure à la 11e minute de jeu de Renato Sanchez, sorti en larmes, touché certainement aux adducteurs, on attend d'en savoir un petit peu plus. Voilà, il risque de passer des examens complémentaires aujourd'hui. Et c'est vrai que cela vient s'ajouter à la blessure de Neymar, qui, on le rappelle, poursuit ses soins et ses entraînements en individuel. Il reprendra les séances collectives en début de semaine. Lui qui fête ses 31 ans aujourd'hui, d'ailleurs, lui qui arrivait à 25 ans au Paris Saint-Germain. On peut aussi préciser que Sergio Ramos, lui aussi, fera son retour la semaine prochaine. Et puis Kylian Mbappé, qui souffre d'une lésion de la cuisse gauche. On rappelle que l'indisponibilité estimée par le Paris Saint-Germain est à 3 semaines. On ne connaît pas le grade exact de cette lésion. On sait que c'est très important pour ce type de blessure, si c'est un grade 2, grade 3, ce qui détermine le nombre de semaines d'indisponibilité. Mais voilà, Christophe Galtier l'a dit hier, il est déjà au travail, il se soigne déjà, et reste à savoir s'il sera là ou non.
On connaît quand même sa grosse faculté de récupération.
Il récupère
bien sûr,
très vite.
C'est obligatoirement, enfin, c'est au minimum 15 jours. Après, en fonction de l'évolution, il est capable peut-être même d'être dans le groupe, par exemple, et de pouvoir rentrer, enfin j'espère en tout cas pour le PSG, parce que Neymar, même s'il revient, entre sa blessure à la cheville à la Coupe du Monde, son retour en post-Coupe du Monde, même si lui il revient, en tout cas athlétiquement, ça sera pas le Neymar d'avant la Coupe du Monde, donc c'est quand même des armes en moins pour le PSG. Et je voulais juste revenir par rapport au discours de Galtier sur Lionel Messi, c'est bien qu'il dit ça, mais je suppose qu'il parlait du match d'hier, parce que s'il dit à ses joueurs de courir aussi pour Messi, pour Neymar, pour Mbappé, ça sera pas possible quand les trois seront là.
Il faudra faire des choix, voilà. Ça c'est sûr. On ne va pas courir pour tout le monde. En tout cas, en ce qui concerne Kylian Mbappé, du côté du PSG, on croise les doigts pour un éventuel retour miraculeux pour le match aller face au Bayern, à l'image de son meilleur pote, Achraf Hakimi.
C'est dur, un joueur comme Kylian qui nous aide beaucoup à l'équipe, et c'est sûr qu'il est difficile, mais on va trouver la solution de possible. La première chose, c'est son physique, et après on va voir s'il arrive. C'est mieux pour nous, sinon on va trouver, comme je dis, des solutions et faire des bonnes choses pour le match.
Ouais, on verra les solutions que peuvent trouver les Parisiens pour combler l'absence de Kylian Mbappé. On va rappeler les échéances. Donc il y a OM-PSG, Arthur, mercredi en Coupe de France, et puis oui, derrière Monaco.
Exactement, ce sera la journée suivante de championnat, et puis derrière ça ira très vite. Mardi, ce huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Voilà, programme très 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 chargé. Chaque jour de récupération va vraiment compter dans le calendrier parisien.
Sachant que Monaco ne joue pas parce qu'ils sont éliminés en Coupe de France et qu'ils rejoueront eux que le jeudi en Coupe d'Europe. Donc c'est vrai qu'ils seront un peu plus.
Le staff parisien le savait, l'ajout de ce match face à Marseille, c'est absolument pas un cadeau. Qui plus est, un classique de Ligue 1.
En plus face aux Marseillais. Merci beaucoup Arthur. Bonne récupération à toi aussi. Tu souffles quand les Parisiens soufflent.
Repose-toi bien.
Non, on a besoin de toi.
Avec Jadot, on s'entretient.
Merci beaucoup Arthur. On retourne nous du côté de Clermont. On suit en ce moment la 22e journée de Ligue 1. Le déplacement de Monaco à Clermont, Damien Tardieu, où ça se passe tranquillement pour les Monégasques qui gèrent là dans cette fin de première période.
Exactement. 1 minute 40 à jouer dans cette première mi-temps. 2-0 pour Monaco. On rappelle Vietesca contre Sancan à la 3e. Mbolo à la 13e, les Monégasques qui ont frappé déjà 9 fois au but, 0 pour les Clermontois. En une statistique résumée, cette première mi-temps des Auvergnats qui certes arrivent à faire des périodes de possession de balles intéressantes, mais sans se montrer dangereux. Peut-être là avec sur le côté droit Jim Alvina qui va être obligé de chercher derrière avec Ogier, puis avec Kawi finalement à 40 mètres. Kawi qui cherche une solution, qui va écarter avec Coffrier, dépassement de fonction pour Coffrier qui va porter un pose ballon pour Aymen Morer, mais on est obligé de repasser derrière. Pour l'instant les Monégasques sont bien en place. Seb, clairement, trouve pas la solution. Ils gèrent très bien les joueurs de Philippe Clément.
Ouais, ils n'arrivent pas à trouver de décalage, ils n'arrivent pas à trouver de joueurs lancés. Ils sont obligés de reculer à chaque fois. Et puis, c'est là où il y a le danger, c'est-à-dire qu'ils sont assez loin de leur but et sur des récupérations assez basses. Les Monégasques arrivent à se projeter. Encore une fois, bon, tant qu'il n'y a que 2-0, on sait l'importance du troisième but. Donc, si ça va comme ça à la mi-temps, on ne sait jamais, ils peuvent aussi revenir avec d'autres idées en deuxième mi-temps, marquer rapidement, voilà. Mais bon, en tout cas ça paraît quand même assez compliqué là.
Compliqué, d'autant que le banc clermontois est quand même très inexpérimenté du fait des blessures et des absences dont je vous parlais tout à l'heure, hormis Komnen Andrić qui joue régulièrement, Jérémy Bella qui revient de blessure. Pour le reste c'est 20 ans de moyenne d'âge, hormis Mehdi Zéphane également, mais qui joue peu. Le reste c'est vraiment des joueurs inexpérimentés, et quand on voit le banc de Monaco avec Ben Yedder, avec Voland, avec Jelson Martins par exemple, évidemment il n'y a pas match là non plus, et il n'y a pas match pour l'instant sur le terrain. On va rentrer dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Il y aura un petit peu de temps additionnel, une minute simplement donnée par monsieur l'arbitre. Il y a eu un arrêt de jeu tout à l'heure avec Neto Borges qui a fait don de son corps pour sauver son équipe sur une tentative de Diata à l'entrée des 16 mètres. Il l'a pris là où il ne faut pas la prendre en fait, cette balle entre les jambes. Neto
Je
Borges,
te fais confiance Damien.
Oui. Tout footballeur qui a joué un petit peu ou même au niveau amateur sait que ça fait très très mal. Il a mis beaucoup de temps à se relever, on a vu, y compris les Monégasques.
Il y en a qui visent là exprès
vraiment. Ah non, pas fair play ça.
Je suis pas sûr que Diata a visé, évidemment, parce que c'était une occasion quand même pour Monaco, mais en tout cas il s'est relevé. Borges, attention à l'attaque Monégasque là, le centre en retrait et la bonne sortie de Aymen Morer, la récupération de Golovin qui va frapper, ça passera largement au-dessus, et c'est une nouvelle tentative pour les Monégasques. Il y en a eu beaucoup dans cette première mi-temps, ils ont scoré d'entrée, il manque un peu d'efficacité.
Et pour le coup ils ont des armes sur le banc, parce que Ben Yedder notamment.
Exactement, c'est ce que je disais, Jelson Martins, Voland, mais qui revient un peu de blessure, et monsieur Bollinger qui va ramener tout le monde au vestiaire. Voilà, la mi-temps ici au Montpied, 2-0 pour Monaco. On rappelle Vietesca contre Sancan à la 3e et Mbolo à la 13e.
Ouais, cette première période bien maîtrisée par Monaco qui a fait le plus dur dès l'entame de match finalement.
Ouais, comme disait Damien, si on compte cette frappe, il va y avoir une dizaine de frappes des Monégas, 0 pour Clermont. d'efficacité avec ses deux buts d'avance et puis une totale maîtrise. Donc, j'ai envie de dire que Monaco a vraiment le match en main. Après, attention, il reste 45 minutes, mais les Clermontois, on sent qu'ils sont, ils sont pas dedans cet après-midi, enfin ce midi plutôt.
C'est compliqué pour le match à 13h, ça leur réussit pas pour l'instant. Merci beaucoup, Damien. On se retrouve tout à l'heure pour la seconde période de ce Clermont-Monaco. 13h46 sur RMC. L'Intégral Sport revient juste après ça.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
h 52 sur RMC. Merci à tous de nous rejoindre dans l'Intégral Sport sur RMC avec Sébastien Piocel. On est à la mi-temps de Clermont-Monaco, 22e journée de Ligue 1. 2-0 à la pause pour les Monégasques. On va retourner dans quelques instants du côté de Gabriel Montpied pour la seconde période. Mais juste le temps de parler de l'affiche de cette 22e journée. Ce soir à 20h45 au Vélodrome Marseille-Nice avec Florent Germain tout à l'heure au commentaire. Salut Flo.
Salut Florent, salut Seb, salut à tous.
Salut Flo.
Qui va bien pouvoir stopper l'OM? C'est la question que je te pose avec cette incroyable série de 9 matchs consécutifs sans défaite. C'est la meilleure équipe de Ligue 1 depuis décembre.
Oui, c'est assez impressionnant. C'est vrai ce que font les Marseillais quand même. Ils n'ont pas perdu en Ligue 1 depuis le 22 octobre. C'était contre Lens et en plus c'était pas forcément mérité. Donc c'est un OM qui tourne bien. Là, 7 victoires, un nul en championnat. Donc il y a une vraie dynamique. Même si Igor Tudor et Pablo Longoria, c'est bien une preuve d'ambition et d'exigence. Ils ont pas trop aimé les premières périodes contre Monaco et Nantes. Je pense que Seb pourra confirmer. Pablo Longoria a dit qu'on avait passé un peu trop de pommade là à tout le monde, le mercato est génial, l'OM gagne tout, il appelle ça les massages, et ça l'a un peu agacé. Donc on a un OM qui arrive quand même très concentré et qui va pas bomber le torse et se croire plus fort que tout le monde, surtout que Nice est aussi une équipe qui tourne bien.
Ouais, on va en parler des Niçois, mais c'est vrai que Seb, oui, c'est le risque aussi pour Marseille quand on est dans une bonne série comme ça. Marseille, on a l'impression presque, on n'a pas l'habitude que tout aille bien en fait.
Ouais, je vais dire surtout à Marseille, ça peut aller très vite dans les deux sens. Après, il y avait aussi la période de mercato, donc je pense que même si ils ont très très bien maîtrisé cette période-là, les dirigeants marseillais, quand je dis les dirigeants, je compte aussi le coach avec, ça reste une période ouverte jusqu'au dernier moment, donc ça peut un petit peu déstabiliser. Par contre, dans ces deux matchs-là, ou notamment ces demi-temps face à Monaco ou Nantes, c'est vrai que c'était moyen, mais après il y a quand même cette faculté de réaction là aussi, donc c'est hyper intéressant pour un groupe. On voit que c'est une équipe très très compliquée à jouer. Les Marseillais, quand je dis une équipe, c'est 15-16 joueurs finalement aussi qui ont vraiment compris les préceptes d'Igor Tudor. Et aujourd'hui, forcément, on se demande qui peut les arrêter. Mais moi, je dirais que c'est plutôt eux. C'est plutôt eux de leur côté. Même si Nice, depuis que Digard a repris l'équipe, a transformé un peu cette équipe-là. Intrinsèquement, dans le jeu, je pense que l'OM est au-dessus. Et au vu des résultats, notamment de Rennes hier, c'est l'occasion de creuser encore un peu plus et puis de prendre de la confiance.
Ouais, Florent, c'est vrai que l'OM a besoin justement de cette confiance alors que se profile en plus de confrontations face au PSG. Hein.
Voilà, faut effectivement faire le plein, ne pas trop penser à Paris qui arrive en coupe de France. Ça, ce sera aussi un match très très chaud. Après, c'est vrai que il y a un petit peu le PSG dans un coin de la tête. C'est possible, mais je pense que les joueurs veulent lutter contre cela parce que Lens va peut-être s'imposer à Brest, parce que Monaco est en train de faire le métier en ce moment à Clermont. Donc Monaco factuellement va peut-être revenir avant le match provisoirement à 2 points de l'OM. Voilà, il faut pas se relâcher du côté des Marseillais. Il y aura ce OM-PSG le 26 février et là pour le coup ce sera le vrai test pour les Olympiens, savoir si pourquoi pas ils peuvent rêver encore plus haut que la deuxième place. Bah justement, on a posé la question, écoutez, à Jordan Veretout. Le petit jeu en ce moment, c'est d'essayer de faire avouer aux joueurs leurs ambitions, pourquoi pas le titre. Et Jordan Veretout, il a répondu au sujet un peu tabou.
Pourquoi vous ne dites pas que vous jouez le titre? Vous avez peur que ça vous porte la poisse?
Alors déjà, on va essayer d'obtenir nos objectifs. L'objectif, je pense que voilà, on va pas se cacher, c'est d'être de jouer la Champions l'année prochaine. Faut pas s'enflammer, faut rester les pieds sur terre. Si le dernier match on est devant Paris, je te dirais qu'on joue le titre, mais voilà, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Et puis voilà, faut rester humble et continuer sur ce qu'on est en train de faire.
C'est vrai que c'est difficile hein, d'avouer vraiment les ambitions aussi pour Marseille, qui sont forcément hautes là maintenant. À un moment donné, va falloir aussi assumer, Seb.
Ouais, mais après le discours il est cohérent de Vertu, parce que certes, il le dit clairement, l'objectif c'est de se qualifier en Ligue des Champions. Et financièrement, je pense que c'est hyper important pour Longoria et le club. Les ambitions, on le voit surtout sur le terrain et pas dans les actes. À partir de là, dès l'instant où on voit que devant ça avance très 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 fort, mais pas que pour l'OM, pour le PSG, pour Lens, pour Monaco si ça gagne. Franchement, ils n'arrêtent pas de gagner, toutes ces équipes-là. Donc ça va se jouer à rien. Il y a un Monaco PSG le week-end prochain. Donc
samedi prochain.
Voilà,
17h.
Déjà, c'est de s'intéresser à ce qu'ils vont faire contre Nice, qui est un bel adversaire ce soir. Et puis après, ça va venir naturellement si les joueurs commencent à dire. Aux médias et forcément donc aux supporters qui jouent le titre, entre eux ils peuvent se le dire, et puis forcément même s'ils sont pas comptables, quand ils voient le classement ils savent que tout est possible, notamment avec cette confrontation face au Paris Saint-Germain en championnat. Mais le championnat il est encore très très long et on sait qu'il peut se passer pas mal de choses. Eux ils ont l'objectif certainement de gagner mercredi pour pourquoi pas gagner un titre et la Coupe de France. Est-ce que ça pourrait s'ouvrir?
Ouais.
Ça, par contre, pour le coup, Dimitri Payet et le club, ils ont dit que c'était un objectif. Et après, derrière, en fonction de ce qu'ils montrent aujourd'hui, on voit notamment le PSG qui est le favori ultime. Ils arrivent à se faire bouger, même contre Toulouse. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça reste quand même assez ouvert pour les Marseillais.
Florent, un mot quand même sur la compo probable de l'OM. Est-ce qu'on peut voir la dernière recrue marseillaise?
Vitinha, c'est possible ou c'est pas impossible. On va le dire comme ça pour être prudent.
C'est possible.
Paolo Lopez dans le but, Mbemba, Gigo Balerdi, les trois axios, a priori on parle là-dessus. Klose et Nuno Tavares pour les pistons. Il est possible que Veretout souffle un peu, à confirmer, mais Rongier et Gendouzi sera alors associé au milieu de terrain. Et puis effectivement, hier soir, il y avait une vraie réflexion au sein du staff d'Igor Tudor de titulariser Vitinha pour plusieurs raisons. C'est que les matchs s'enchaînent tous les trois jours. Alexis Sanchez, lui aussi, a été énormément sollicité ces derniers temps. Donc pourquoi pas titulariser Vitinha? C'était une vraie réflexion chez le coach croate qui serait associé à Under et Dimitri Payet. Là, pour le coup, c'est pas moi qui l'annonce, c'est le coach marseillais. Flora, on en rigolait il y a quelques semaines en disant que de temps en temps, il nous faisait un petit cadeau en annonçant au moins un titulaire. Et là, pour le coup, c'est Payet qui a été annoncé.
Ça en fait quand même des solutions pour Igor Tudor. C'est impressionnant avec ces joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Là, tu n'as pas cité Unai, mais Gendouzi qui reviendrait dans les deux devant la défense. Pour lui, franchement, dans ce système-là, je pense qu'il peut remercier son président d'autant, par rapport au mercato.
D'autant qu'Alexis Sanchez peut aussi jouer en soutien de Vitinha. Donc il y a plein de solutions. Tout ça dans un stade qui va être plein à craquer. Il faut le préciser encore parce que c'est guichet fermé depuis le début de saison. Et là, c'est pas anodin. Ça va être la troisième affluence historique de l'Olympique de Marseille au Vélodrome. 65 200 supporters attendus. Grosse ambiance avant un petit OM-PSG qui là aussi sera grosse ambiance. Donc on s'ennuie pas à Marseille.
On va battre le record encore à mon avis pour cet OM-PSG. Flo, un mot quand même aussi sur Nice. On en a parlé un petit peu avec Seb. C'est vrai que depuis l'arrivée de Didier Digard, tout a changé ou presque pour les Niçois.
Ils sont invaincus. C'est vrai qu'ils se sont sortis de matchs compliqués. Il y a eu ce gros match d'abord contre Montpellier avec un festival de buts 6-1, et puis surtout battre Lille, aller gagner à Lens qui était invaincu, qui enchaînait les victoires au Stade Bollard. Pour le coup, c'est un Nice transfiguré qui arrive en totale confiance. Il y a un petit point d'interrogation. Est-ce que Terem Mofi sera titulaire? Mais c'est une possibilité. On verra. En tout cas, quoi qu'il arrive, Buonanni, Laborde, Diop pour le trio offensif. Vous ajoutez peut-être Mofi. Ça veut dire qu'il y aura des clients. Et Marseille, on le rappelle, a été un peu en difficulté contre Monaco, surtout en première période quand ça jouait bien en ballon, parce que Marseille prend des risques et laisse des espaces. Donc Nice a peut-être un coup à jouer et arrive pour effectuer un vrai test. Eux aussi, ce sera pour les hommes de Didier Digard, effectivement, peut-être un révélateur de savoir si, en plus, dans une grosse ambiance après Bollard, ils peuvent récidiver et causer des problèmes aux Marseillais. Au classement, Nice, ils sont un peu relégués parce que le début de saison a été un peu catastrophique, mais s'ils veulent encore rêver, pourquoi pas au moins de la Ligue Europa, faut qu'ils fassent un coup ce soir et se rapprocher au moins de la 7e place.
Tu crois, toi, aux ambitions européennes de Nice, Seb, ou tu penses qu'ils peuvent là juste terminer la saison proprement pour préparer la prochaine finalement?
C'est un peu comme la question pour Lyon hier, même si pour moi aujourd'hui Nice est peut-être mieux armé que Lyon. Le problème c'est que devant ça trace quoi. C'est là on parle même des cinq premières places. Lille qui a été gagné aussi à Rennes hier, ça trace. Alors, c'est vrai, quand on regarde l'effectif niçois, il y a vraiment de quoi faire, notamment sur le plan offensif pour Didier Digard. Il a donné un nouvel élan à cette équipe. Maintenant, sur la durée, avec autant de points de retard sur les places européennes, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il reste beaucoup de points à prendre, mais j'y crois pas trop.
Dans la confrontation directe, en tout cas, il faudra prendre les points pour les Niçois. Et là aussi, ça en fait partie face à Marseille. Merci beaucoup, Flo.
Merci
à
vous.
On se retrouve ce soir, 20h45, avec Jeannot, évidemment, pour commenter cette rencontre. Ce sera sur RMC. On reste en Ligue 1, Seb, parce que ça va reprendre du côté de Gabriel Montpied, la 22e journée. Clermont face à Monaco. On va retrouver Damien Tardieu pour le coup d'envoi dans quelques instants de cette seconde période.
Effectivement, les deux équipes sont de retour. Petit échauffement, évidemment, pour se remettre en jambes côté Monégasque. Il n'y aura pas de changement a priori, ni d'un côté ni de l'autre. On rappelle le scénario de la première mi-temps. Monaco très rapidement devant avec ce but de Vietesca contre son camp à la 3e, puis Mbolo à la 13e. Derrière, Monaco a eu des opportunités pour mener 3-0 par Minamino, notamment dans le petit filet, par également Caio Henrique qui a vu un bel arrêt de Moridio. Les Clermontois ont été assez intéressants par séquence dans la construction, mais totalement inoffensifs. Zéro tir en première mi-temps pour les Clermontois, eux qui déjà il y a 15 jours, la semaine dernière face à Nantes, n'avait pas de cadré une seule fois. C'était d'ailleurs le seul match de Ligue 1 depuis 2006-2007 où il n'y avait pas eu un tir cadré ni de côté Clermontois ni côté Nantais. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps est donné. Clermont va devoir faire fort pour revenir dans cette partie, eux qui restent sur 5 matchs sans défaite. Et puis les Monégasques, eux, ils vont devoir gérer mieux que ce qu'ils ne l'avaient fait cette semaine face à Auxerre pour obtenir une victoire qui les rapprocherait à un petit point du podium et qui étirerait également leur série, eux qui n'ont toujours pas perdu également en 2023, les Monégasques très à l'aise à l'extérieur notamment. 30 secondes de jeu dans cette deuxième mi-temps, 2-0 en faveur de l'AS Monaco.
Ouais, t'es clairement là, Seb, tu reviens avec quelles ambitions pour cette seconde période? C'est quoi, c'est attaquer pied au plancher la seconde période pour espérer revenir rapidement, ou rester prudent pour pas en prendre un troisième?
Non, bon. En fait, ce qu'on disait aussi en off, c'est que bon, clairement, ils ont 31 points. Donc, franchement, ils font une superbe saison. Ils sont quasiment, alors pas mathématiquement, mais ils sont quasiment sauvés par rapport aux autres équipes. Donc, ils doivent.
Tu veux dire que c'est pas sur ce genre de match-là, voilà, qu'ils vont aller prendre des points?
Oui, alors prendre du plaisir déjà et montrer un autre visage, peut-être être un peu plus haut. Au moins tirer au but. Ça ferait deux matchs de suite sans tirer au but. Mais non. Après, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Ils ont eu la possession. L'important, c'est qu'après, ils arrivent à faire des décalages. Après, je pense pas qu'il y ait énormément de pression du côté de Clermont, vu le classement où ils se trouvent. Voilà, Monaco, ça reste largement au-dessus de ce qu'on voit là sur ce match-là. Mais ils auront peut-être des opportunités à eux de mieux les gérer.
Ouais, Damien, comment tu sens, toi, le club clermontois? C'est vrai que leurs ambitions, finalement, c'est le maintien à cette saison. Là, ils sont quand même très, très bien partis et ça peut être validé assez rapidement.
Oui, c'est vrai qu'avec 30 points, ils ont 12 points de plus que l'année dernière à la même époque. Hein. Tout simplement, il avait fallu attendre la 33e journée, me semble-t-il, l'année dernière pour qu'ils aient ce total de points, imaginez-vous. Donc, ça veut dire qu'ils ont effectivement pas mal d'avance et qu'ils n'ont pas de pression pour ce genre de match, avec en plus, on le rappelle, les absents d'importance. Il faut qu'ils lâchent les chevaux, tout simplement. Je pense qu'ils ont été un peu timides en première mi-temps. Dans la construction, c'est appliqué par moment. 55% de possession, c'est pas neutre non plus face à Monaco. Mais il faut qu'ils se lâchent un peu plus pour essayer de faire des différences. Attention sur les Monégasques, là, qui sont à l'attaque sur le côté droit. Mais la bonne intervention de Maximiliano Coffrier, le rock belge, arrivé en prêt du Spartak Moscou à l'intersaison et qui est l'une des très bonnes pioches clermontoises qui a permis d'avoir cette assise défensive. En tout cas, pour l'instant, toujours 2-0 pour Monaco, mais on sent que peut-être les Clermontois, en termes de pressing, avec à l'image là de Cham qui oblige Henrique à rendre le ballon en touche, on sent qu'ils en mettent peut-être un chouïa plus. C'est sans doute ce que leur a demandé Pascal Gassien, qui, même si le maintien est en bonne voie, vous savez, il lâche pas le coach, hein, il veut pas que
les joueurs s'endorment.
Surtout qu'ils sont sur une belle série.
Ouais, ils peuvent pas avoir un autre discours. Quand ils n'ont pas les points, bon, ils ont 12 points d'avance sur le premier relégable qui est Ajaccio, donc c'est quand même un super matelas, donc ça a du mal à avancer. Mais oui, il peut avoir que ce discours là et puis pour revenir à Clermont, c'est en général, bon, c'est un club qui vit seulement sa deuxième saison en Ligue 1, et puis souvent la deuxième saison, on sait que c'est la plus compliquée,
surtout avec 4 descentes, Seb.
Et oui, ouais, en plus.
Et surtout avec 4 descentes, ouais.
Ah, c'est vrai.
Donc c'est vrai qu'en début de saison il y avait de l'inquiétude hein, parce qu'il y avait eu beaucoup de départs. Nsimba, Otunji, Zedatka, Bayo, Salis Abdoul Samed, ça faisait beaucoup hein. C'est la moitié de l'équipe qui était partie, des joueurs qui arrivaient, qui un recrutement un peu cosmopolite avec des joueurs d'origine diverse. Il faut aussi qu'il y ait un amalgame qui se crée, et Pascal Gassien pour l'instant l'a réussi avec peut-être un peu moins de flamboyance entre guillemets dans le jeu, mais ils sont beaucoup moins naïfs, ils sont beaucoup plus solides aussi, même si là ça s'est pas forcément vu sur la première mi-temps. Et voilà, donc ils vont essayer évidemment
de pragmatisme, on va dire. C'est
exactement.
Ils se sont fait avoir l'an dernier, et c'est vrai que c'était l'une des équipes qui jouait le mieux, hein, en tout cas ouais. Sur la première partie de saison. Il faut voilà, un peu
sans l'attaque les clairement. Toi, la tentative de Cham, c'est dégagé par Maripane, ça va être récupéré par Jim Alvina qui va tenter avec des petites touches de trouver Cham sur le côté droit. On est à l'angle des 16 mètres, Cham qui va rentrer sur son pied gauche. Voilà un bon ballon dans la surface pour Alvina, et il y aura un corner à suivre pour Clermont. Il me semble que c'est peut-être pas le premier, mais en tout cas on sent qu'ils en mettent un petit peu plus, les Auvergnats. 2-0 pour Monaco, 49 minutes de jeu, le corner à suivre pour Mohamed Cham. Les Clermontois dans cet exercice se sont pas franchement montrés en réussite dernièrement. On va voir en tout cas Coffrier est monté, Vietesca est montré, qui n'ont pas marqué pour l'instant cette saison. Le corner de Cham, c'est pas très bien tiré ça au premier poteau, et les Monégasques vont pouvoir se dégager. 50 minutes, 2-0 pour Monaco qui revient à un point du podium pour l'instant.
Ouais, c'est dommage quand même ces occasions aussi pour ces occasions, on parle de situation,
ouais, Seb, piqué, quoi.
Pour Clermont, mais on a vu quelques-unes en première période avec des mauvais contrôles, avec des glissades, etc. C'est des opportunités, ils vont peut-être pas en avoir 50 non plus les Clermontois dans ce match, et il va falloir les exploiter.
On les voit quand même
Et attention au Minamino, il a failli se l'emmener là avec le beau jeu de corps de Mbolo, mais la bonne intervention de Coffrier finalement, et les Clermontois vont pouvoir repartir.
Sur ces 5 premières minutes, ils sont quand même un peu plus entreprenants les Clermontois,
avec notamment le jeune Mourer à nouveau là qui a fait une différence. Il a vraiment des qualités ce garçon, 18 ans, premier match en Ligue 1, et c'est le plus jeune joueur de l'histoire pour Clermont en Ligue 1. Alors effectivement il n'y a pas beaucoup de recul avec une saison et demie, mais quand même il rentre déjà dans les tablettes du club auvergnat. Jeune joueur francilien d'origine, passé par le Paris Saint-Germain dans les équipes de jeunes notamment, et qui évoluait dans l'équipe réserve du Clermont Foot en National 3. 9 matchs, 5 buts depuis le début de la saison, ce qui a poussé, avec en plus les absents dont on parlait tout à l'heure, Pascal Gassien à lui faire confiance et à le lancer dans le grand bain pour l'instant, avec une certaine réussite individuellement, même si c'est lui qui commet la faute sur le coup franc qui amène le premier but monégasque. 1-0 pour l'instant, pour 2-0 pardon, pour Monaco après 50 minutes, mais des Clermontois qui sont un petit peu mieux dans ce début de deuxième mi-temps.
Ouais, on parlait tout à l'heure de Clermont qui se présente pas forcément face à Monaco avec les ambitions de prendre les points. Quand on regarde le calendrier Clermontois, Damien, il y a quand même des gros rendez-vous à venir aussi. Hein.
Exactement, ils viennent déjà de jouer Lille, et puis ils avaient joué Rennes également au début du mois. Ils vont retrouver Rennes dans 10 jours, dans 2 semaines maintenant. Et puis il y aura l'OM ici en prime samedi prochain, hein, Clermont-Marseille. Effectivement, quand on prend d'affilée Lille, Monaco, Marseille, Rennes derrière, c'est pour ça qu'il faut pas non plus trop traîner côté Clermontois, Seb. Hein. Quand on, là pour l'instant ça va, ils sont chauds, mais ça peut ils sont bien au chaud, mais ça peut revenir derrière. Il suffit que t'enchaînes 3-4 matchs sans victoire, t'as plus que 6-7 points d'avance, et tu te retrouves
c'est
après.
C'est positif ça. Non, puis j'aime bien ce que dégage Clermont dans le jeu. Ça fait ça fait du bien aussi de voir ce genre d'équipe là, même si c'est un peu moins flamboyant que l'an dernier. C'est structuré, ils ont fait des belles prestations depuis le début de saison. Donc ils ont le mérite d'essayer de jouer par moment, même si quand il leur manque 2-3 joueurs importants, bah c'est un peu plus compliqué. Et puis oui, c'est vrai qu'il reste des matchs, oui, ils vont jouer contre des grosses équipes, mais les autres aussi, du coup, comme ça a du mal à avancer. Bon, il leur manque 3 victoires vraiment, je pense, pour se sauver, 3-4 victoires.
Ouais. Effectivement, ouais, parce que c'est vrai que ça avance pas beaucoup derrière non plus. Les prévisions faisaient état d'une descente à 34-35 points à peine. Bon, après, on sait que ça s'accélère un petit peu sur la fin de la saison, mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont bien au chaud, les Clermontois, et les Monégasques sont un peu moins bien dans ce début de deuxième mi-temps. Il y a un petit peu moins d'implication technique, et à l'image de Kawi là qui casse des lignes et qui va peut-être pouvoir servir dans la profondeur. Greg Jonquet dans la surface. Il est touché par Dizazi. Est-ce que monsieur Bollinger va dire quelque chose? Les deux se sont heurtés assez violemment finalement. On reverra ça. Est-ce qu'il va être appelé par son arbitrage vidéo, monsieur Bollinger? En tout cas, le ballon est sorti en touche, puisque Kiey et Dizazi sont restés au sol. On va revoir l'action. Kiey touche le ballon en premier. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a pas grand chose.
C'est dur. En tout cas, c'est très bien joué de la part de Kawi, hein, ce petit ballon entre les deux.
Après, il touche pas le ballon, hein, Dizazi. Hein.
Ouais.
Alors qui aille le touche en premier,
ouais,
ils arrivent vraiment.
Son pied droit. Mais bon, c'est compliqué de siffler.
Ouais, faute manifeste ou pas, il y a que dans cette situation-là que monsieur l'arbitre, monsieur Bollinger peut être appelé, et il a quand même le doigt sur l'oreillette, hein. On va suivre ça, parce que Kiaï reste au sol, je pense, il prend un bon petit tampon, hein, Kiaï, quand même, une petite béquille, peut-être.
Tu prends Dissasi, oui, en pleine tête,
ça. Oui, c'est pas mal.
Ça met un peu KO.
C'est vrai que là, pour le coup, ce contact-là, Dissasi, Kiaï, il n'y a rien du tout, estime monsieur Bollinger. Et du coup, on va pouvoir relancer côté Monégasque, mais une petite alerte pour les hommes de la principauté. 9 minutes en deuxième mi-temps, 2 buts à 0 pour Monaco qui pour l'instant est plutôt tranquille ici à Clermont.
Ouais, les 14h11 sur RMC, on revient dans quelques instants dans l'Intégral Sport pour suivre la suite de ce Clermont-Monaco, et puis on va vous présenter aussi les affiches qui vous attendent dans le multiplex à 15h. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Flora Messi.
14h passe sur RMC, je suis toujours avec Sébastien Piocelle dans l'Intégral Sport. On vous accompagne jusqu'à 15h avant de laisser la main à Christophe Cessieux qui va vous accompagner pour le rendez-vous du jour. Le coup d'envoi du tournoi destination pour le 15 de France, ce sera à 16h face à l'Italie à Rome. Ce sera évidemment à suivre sur RMC. Nous, on suit la Ligue 1, la 22e journée, Clermont face à Monaco avec Damien Tardieu, les Monégasques bien installés dans ce match. Ça a été un retour de seconde période un peu compliqué, puis là, ils sont à nouveau en bonne position.
Oui, avec un bon coup franc pour Caio Henrique à l'origine du premier but, on le rappelle, un coup franc. Alors celui-là, il est un peu plus éloigné, on est à une quarantaine de mètres des buts clermontois, mais on va la mettre dans la boîte du côté de Caio Henrique. Il a les deux bras levés, est-ce que ça veut dire deuxième poteau? Ça serait trop simple. Finalement, c'est Golovin qui va s'en charger. Non, c'est finalement Caio Henrique, les petites feintes, les clermontois qui vont peut-être pouvoir s'en sortir. Tout ça pour ça, effectivement. Et Ogier qui peut s'en sortir avec Morer également, qui va pousser ce ballon en touche. Le danger va rester quand même dans les 30 mètres clermontois. 2 à 0 pour cette équipe de Monaco qui n'a plus perdu à l'extérieur depuis le mois d'octobre. C'était 4 buts à 3 à Lille dans un match un petit peu fou. Toujours très solide, les Monégasques, et qui marquent à chaque match également à l'extérieur au moins une fois. Très solide équipe monégasque avec eh bien, des joueurs à l'échauffement. Je vois notamment Wissam Ben Yedder, bien évidemment, qui est à l'échauffement côté Monégasque. 11 minutes en deuxième mi-temps, 2 à 0 pour les hommes de Philippe Clément.
Ouais, Seb, là, Monaco va tenter de mettre ce troisième but histoire de se dire on est vraiment à l'abri, on va pouvoir gérer la fin de match sans se faire peur.
Ouais, puis il y aura du coaching, hein. On est habitué à peu près à l'heure de jeu à ce que Philippe Clément fasse des changements, notamment au niveau offensif. Ils ont des armes, notamment avec Ben Yedder ou Gelson Martin qui peuvent rentrer. C'est une équipe qui a deux buts d'avance, qui a la maîtrise, même si Clermont a. On les sent un tout petit peu mieux. Bon, ils devraient pas se mettre en danger, mais encore une fois, je me répète, attention au troisième but, quoi. Le troisième but du match, comme dit souvent le coach Courbis.
Le théorème Courbis, on va voir ce que. Là, il a raison, ouais, effectivement. Parce qu'on sent que si Clermont revient à 2-1, ça peut un petit peu changer la donne, même si, vu les capacités du banc Monégas, qui pourrait éventuellement en remettre un petit peu plus. Mais voilà, ce troisième but, il sera important dans cette partie. Les Monégasques qui repartent en tout cas de l'arrière avec Aguilar là sur le côté droit. Il va essayer de trouver Diatta. C'est bien couvert par Coffrier et Ayman Morer qui va relancer avec Magnin. Les Clermontois à l'attaque. 12 minutes en deuxième mi-temps, 2 à 0 pour Monaco ici en Auvergne.
On continue de parler de cette 22e journée de Ligue 1. Ça se poursuit à 15h. Vous en avez l'habitude le dimanche avec le multiplex. On va vous présenter les 4 affiches au programme. Et d'abord, Lorient-Angers avec Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-Yves.
Salut Flora, salut Seb.
Salut Pierre.
Bonjour à tous.
13 défaites de suite pour Angers, un record déjà en première division.
Oh, c'est pire qu'à l'Avignon à l'époque.
Ouais. Pire série en cours dans les 5 grands championnats. Mais quand va s'arrêter cette terrible série, Pierre-Yves?
Le plus tôt possible, hein, évidemment, pour ces joueurs, ça doit être très compliqué. Tu évoquais Arles-Avignon, ça fait partie des records à aller chercher, des pires records. Plus grande série sans victoire, ils sont à 23 matchs à Arles-Avignon. Mais il y a aussi une série européenne que les Angevins ont en point de mire. Alors s'ils peuvent l'éviter, évidemment ils le feront, mais c'est celle de Sunderland qui en 2002-2003 avait vu ses 15 derniers matchs se terminer par une défaite, 15 défaites consécutives. Là ils sont déjà à 13. Aujourd'hui c'est Lorient, c'est compliqué. Il y aura Auxerre à venir, peut-être plus à la hauteur des Angevins et de ses capacités actuelles, même si tout le monde pensait que face à Ajaccio lors du dernier match à domicile, c'était aussi possible. Les Angevins sont en grande difficulté. Quand on commence à parler de records de ce type-là, ça veut dire que ça va pas bien du tout, évidemment, et que on le dit maintenant.
Attention au Monégasque avec Mbolo qui va servir. Minamino, mais le bon retour des Clermontois, ils l'ont pas très bien joué. Les Monégasques qui avaient encore une belle situation Deschamps avec Mbolo à l'origine, mais ça fait toujours 2-0 pour Monaco, 59 minutes de jeu.
L'espoir de maintien pour Angers est loin. On va voir des recrues des deux côtés et ça va être intéressant du côté lorientais avec la compo qui vient de nous arriver. On sait que Romain Fèvre sera là côté gauche, que Bamba Dieng sera côté droit associé à Ibrahima Koné pour les lorientais, et puis du côté angevin on verra également Nian associé à Unou à la pointe de l'attaque dans un 4-4-2 assez classique.
Ouais, c'est vrai que quand on est dans une série comme ça absolument catastrophique, ça engendre finalement du négatif en permanence. La confiance, elle n'est plus là. On n'arrive plus à avoir les automatismes habituels. C'est compliqué d'être dans un cercle comme ça négatif.
Ouais, c'est un club qui est vraiment en souffrance. Ouais. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites depuis quelques années. Et puis ils sont en train de le payer aujourd'hui. Et c'est vrai que on le voit même. On parlait d'Ajaccio, mais il y a eu d'autres matchs où ils étaient devant, ils menaient au score. Puis à chaque fois, ils arrivent. Finalement, il y a des coups du sort. Ils sont un peu moins bien. Ils sont en manque de confiance. Et puis, même si entre eux, ils parlent pas du record, les supporters, ils leur en parlent. Leurs proches, ils leur en parlent. Donc tu es vraiment à chaque fois dans le négatif. Donc il faudrait encore peut-être un coup du sort aussi, mais de l'autre côté, ouais, pour que ça change un peu la donne. Même si le maintien, il est quasiment impossible, ouais. Mais au moins voilà, revenir dans le positif, essayer de gagner un match, au moins de pas le perdre, et ensuite tranquillement préparer la Ligue 2, hein. Il faut pas avoir honte, hein. Il faut se projeter malheureusement, ouais, sur la saison prochaine,
préparer l'avenir effectivement pour Angers. Lorient-Angers, coup d'envoi 15h dans le multiplex. Tout de suite on parie sur cette rencontre sur RMC.
Winamax, le plus important c'est de gagner, c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax
et avec notre expert en paris sportif Johan Guillet. Salut Johan.
Salut Flora, salut à tous, salut Sergio.
Quelles sont les cotes pour ce match aujourd'hui?
Eh ben, elles sont étrangement plutôt déséquilibrées, mais assez favorables. Si on veut miser sur une victoire lorientaise, on double la mise pour le succès des Merlus qui jouent à domicile contre le dernier. 3,40 le match nul, on quadruple la mise pour un succès angevin. J'ai presque envie de dire qu'il faut foncer là sur cette victoire lorientaise côté à 2. C'est difficile de trouver un pari qui augmente réellement la cote. On peut tenter un buteur, Bamba Dieng buteur avec la victoire des Merlus. C'est côté à 4, ça paraît pas mal du tout. Et si on veut prendre un peu moins de risque, un N plus les deux marques. Donc Lorient qui ne perd pas à domicile avec les deux équipes qui marquent, c'est côté à 2,10.
Tu prends quoi, toi, Seb?
Je suis surpris de la cote de Lorient, enfin la victoire côté à 2. Ben,
je pense que c'est dû au départ de Mofi.
Ouais, mais bon, du coup, je vais faire profiter son remplaçant, Dieng. Je vais aller à victoire de Lorient et Dieng qui marque. Enfin,
allez, côté à 4, ça me paraît pas mal du tout. Ah, je fonce dessus également. Nous sommes d'accord avec cette piocette. C'est bénéfique.
C'est pas mal. Effectivement, merci beaucoup, Johan. Tous les paris à retrouver sur le site rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Lorient Angers, c'est à 15h dans le multiplex. En ce moment, on suit cette 22e journée de Ligue 1. 2-0 pour Monaco sur la pelouse de Clermont. On va retourner à Gabriel Montpied dans quelques instants. Juste le temps de vous présenter une autre affiche de ce multi à 15h. Strasbourg-Montpellier avec Sébastien Ruffet. Salut Sébastien.
Salut, bienvenue à la Méno sous la pluie alsacienne.
Classique, on a envie de dire.
Mais non,
pas du tout.
Légende.
Strasbourg est un peu retombé dans ses travers quand même lors des deux derniers matchs, Seb, et du côté de Montpellier, c'est loin d'être la grande forme aussi. Un duel finalement très important pour le maintien.
Ah, c'est un duel qui est vraiment très très important parce qu'il peut donner une dynamique à cette équipe comme à l'autre. Gagner cet après-midi permettrait de se dire allez, on est capable de faire des choses dans cette Ligue 1, on peut y croire, on peut aller chercher quelque chose et avoir un petit coup de boost. Et une défaite pour une équipe comme pour l'autre, hein, c'est un peu le même si Montpellier a quelques points d'avance avec 20 points, Strasbourg 15, mais malgré tout les Montpellierains sont en difficulté. Tu l'as dit, hein. La défaite à Nice 6-1 a fait mal, 3-0 à domicile contre Nantes. Alors il y a eu le petit rebond à Auxerre 2-0, et puis de nouveau perdre contre Paris, c'est pas une insulte, mais malgré tout ça casse encore une fois un petit début de dynamique. C'est vrai que c'est un match qui vaut très très cher. Surtout quand on voit le calendrier de ces deux équipes, c'est-à-dire que Montpellier devra affronter Brest et Troyes, et Strasbourg les prochains matchs à domicile. Alors évidemment après il y a des déplacements entre temps, mais Angers, Brest, Auxerre, Ajaccio ici à la Méno, alors que Strasbourg n'a jamais gagné cette saison à la Méno.
Donc c'est mal à domicile.
C'est ça, ils ont beaucoup de mal alors qu'ils étaient imprenables la saison dernière, et cette saison ils sont vraiment dans le dur. Donc il faut gagner pour Strasbourg pour se remettre en confiance, ravoir ce public avec soi derrière cette équipe pour gagner ces matchs qui vont être prépondérant dans les prochaines semaines. Et on a changé l'entraîneur, vous le savez, Julien Stéphan. Mathieu Le Scornet, son adjoint, a pris la suite. Il y a eu du mieux contre Lens ici, le 2 partout était assez incroyable, tout le monde a repris espoir. Il y a eu beaucoup de chances d'aller gagner à Lyon, faut pas se leurrer. et derrière malheureusement contre Toulouse ici, contre Rennes aussi la semaine dernière. Là c'était par contre en milieu de semaine une bouillie, hein, y a pas d'autre mot, les ballons ne ressortaient pas, pas d'envie, pas d'implication. Donc on se pose encore des questions, faut-il conserver Mathieu Le Scornet, est-ce qu'il faut aller chercher un nouveau coach pour finir cette saison? Voilà, il y a beaucoup beaucoup trop d'interrogations autour de cette équipe strasbourgeoise aujourd'hui. Une victoire paraît vraiment indispensable pour avoir un petit espoir. C'est vrai qu'une défaite, alors bien sûr le championnat est long, hein, Seb, il reste encore une quinzaine de journées derrière, on sait que,
ouais,
que
ça, on se le dit souvent, mais on après, se le dit ça souvent, passe très vite.
Mais c'est ça, ça passe très vite, et une dynamique, on sait que c'est dur à inverser, et une nouvelle défaite à domicile là contre Montpellier, ce serait très très dur pour les Strasbourgeois d'aller chercher ensuite le maintien.
Ah, comment tu vois toi Seb les prochains matchs, l'avenir de Strasbourg en Ligue 1? C'est vrai que c'est compliqué quand on voit la dynamique en ce moment et les changements de coach qui pour l'instant ne changent pas grand chose.
Moi je crois beaucoup à l'aspect mental, et on parlait de l'an dernier de la qualité de Strasbourg à domicile, oui, qu'ils étaient imprenables, et là je pense, je ne suis pas dans le groupe, je ne vis pas avec eux, mais que au contraire, cette année, bah, ils ont plus de mal à domicile, parce que bah, même s'il y a toujours du monde qui vient à la méno, ils seront quand même plus sifflés. Et puis il y a ce truc de dire, bah, un peu comme Angers, c'est-à-dire que on n'arrive pas à gagner.
Le donc, négatif amène le négatif.
Il y a ce
truc-là, ouais,
qui arrive dans les têtes. Et après, dans le changement d'entraîneur, je pense que ça aurait dû être plus radical. C'est-à-dire là, finalement, tu gardes l'adjoint, mais... Pas un adjoint qui était là avant que Stéphane arrive, un adjoint qui est venu et qui était déjà à Rennes avec lui. Donc fondamentalement, tu changes pas grand chose. Oui, il y a eu ce petit rebond contre Lens à domicile, mais derrière, bon, il se passe pas grand chose. Donc moi, quitte à changer, il aurait mieux fallu prendre. Bon, c'est peut-être pas trop tard, hein, parce que là, bon, ils arrivent dans une période aussi, ils vont devoir quand même payer les amendes. Oui. Donc peut-être que en fonction du résultat. Ce que je souhaite à aucun entraîneur, mais en fonction du résultat ouais, contre Montpellier, peut-être qu'ils vont se dire qu'il faut vraiment changer d'entraîneur.
Ouais, c'est vrai. Et un mot.
Juste qu'on peut ajouter, c'est qu'effectivement Marc Keller, le président, lui souhaitait recruter un nouvel entraîneur. On parlait beaucoup de Valérie Ismaël et de Sabri Lamouchi notamment, et ce sont les cadres de l'équipe qui sont allés voir, on le rappelle, Marc Keller pour lui dire écoute Mathieu Le Scornet, on aime bien son discours, c'était l'adjoint certes, mais on aime bien ce qu'il fait, ce qu'il propose, donc il faut le garder. Donc ils ont insisté. Donc là, la parole est aux joueurs, est aux joueurs, je veux dire. À un moment là, Marc Keller les a suivis, les a écoutés, il a dit d'accord, là maintenant c'est aux joueurs de répondre sur le terrain. À partir de ce moment là où à 7 joueurs cadres tu vas dans le vestiaire du président pour dire si c'est l'homme de la situation, et ben c'est à toi de répondre sur le terrain et de montrer que tu crois en lui, en son discours, au club, au maintien. Voilà. Et malheureusement, ce qu'on a vu à Rennes, c'est pas du tout ça. Donc est-ce que Marc Keller va reprendre la main en disant bon ok, vous êtes bien gentils les gars, mais maintenant
c'est moi qui
je
décide.
Reprends les rênes, ouais, et c'est moi qui décide. Voilà.
Ouais. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ce match face à Montpellier peut évidemment décider de l'avenir de Strasbourg et de son coach. Merci beaucoup Sébastien. On te retrouve tout à l'heure à 15h dans le Multiligue 1 avec Christophe Cessieux évidemment sur RMC. On retourne du côté de Clermont avec Damien Tardieu, parce qu'il y a eu de belles occasions pour les Clermontois face à Monaco.
Oui, 23 minutes à jouer dans cette partie 2-0. On rappelle pour Monaco les deux buts dans le premier quart d'heure. Mais Clermont, on le disait, était mieux dans ce début de deuxième mi-temps. Ils ont réagi avec une tentative, la première du match de Kawi. Il a quand même fallu attendre la 65e, un tir pas dangereux, mais surtout derrière un bon centre de Bella, un ballon que Nubel touche, et derrière c'est la reprise de Magnin sauvée me semble-t-il par Camara qui se jette pour sauver ce ballon. Bref, Clermont se montre un petit peu plus dangereux, hein. On va pas dire non plus que les Monégasques ont très peur, mais Clermont se montre dangereux, alors que là Coffrier reste au sol, il a pris une semelle de Brel Embolo,
ouais,
qui
mais
ça fait très mal, hein.
Ouais, ça fait très très mal,
et ça serait un coup dur pour les Clermontois qui ont déjà Seydou sur le flanc. Et
ils sont pas habitués à prendre des semelles, les défenseurs, ils aiment bien en mettre, mais
quand c'est l'inverse, vrai, c'est moins drôle. Voilà.
Mbolo qui nous avait gratifié d'un petit point avec la semelle juste avant, il fait un très bon match. Évidemment, l'avant-centre suisse qui a mis son 12e but de la saison, et Coffrier, ça n'a pas l'air d'aller. Hein. Et ça serait un coup dur pour des Auvergnats privés de Seydou, qui passera des examens en début de semaine pour savoir le degré de sa blessure au ménisque et une éventuelle opération également, ce qui le priverait sans doute de longs mois jusqu'à la fin de saison. En tout cas, il y a un arrêt de jeu, 68 minutes de jeu Monaco. Pour l'instant, se rapproche à un point du podium. Monaco mène 2-0 en Auvergne.
Ouais, cette seconde période, elle est un peu compliquée à lire, Seb, finalement, parce qu'on voit pas trop. On pensait que Monaco allait revenir avec des vraies ambitions, hein, pour se mettre à l'abri. Puis finalement, Clermont a pas non plus abdiqué. Donc c'est un peu difficile de savoir ce qui va se passer dans ce match.
Ouais, et puis il y a eu le changement. Bella qui apporte un petit peu aussi.
Il a remplacé Cham.
Mais je trouve qu'il est bien rentré. Après là, peut-être que si Coffrier doit sortir, c'est peut-être l'occasion de repasser à 4 et d'amener un autre joueur dans l'entrejeu.
On vient de revoir l'image,
ouais. Ah ouais, il fait très mal. C'est involontaire, mais il fait très très mal. Et ouais, peut-être de repasser à 4. pour ramener sur cette fin de match. Là, il reste quand même une vingtaine de minutes. Bon, ça a l'air d'aller, il s'est relevé. Et apporter un joueur en plus dans l'entrejeu ou devant pour poser plus de soucis au Monégasque.
Il change très peu, hein. Pascal Gatien, il a confiance en ce système à 3 derrière. Et même mené, il a rarement repassé son équipe à 4. Et c'est vrai que le début de saison lui a donné raison, hein, d'ailleurs, parce que ce schéma à 4 qui était immuable chez lui lors de la montée de Ligue 2 en Ligue 1 et puis la première année de Ligue 1, ce schéma n'a été pas forcément adapté au recrutement qu'ils avaient fait, notamment Vietesca, Coffrier. En tout cas, pour l'instant, pas de changement de système et Coffrier est revenu. C'était a priori qu'un coup. C'est vrai que il y a une belle semelle, mais j'ai pas l'impression que sa cheville tourne, heureusement. Alors que là, il y a une faute de Crépin Diatta sur Neto Borges. 70 minutes de jeu et il va falloir que les Clermontois s'activent s'ils veulent redonner un peu de suspense dans cette partie. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. 2-0 pour l'AS Monaco ici au Montpied.
Ouais, on voit que Monaco aussi a haussé un petit peu l'intensité quand même.
Mais pas de changement du coup. Ouais, pas de changement du côté monégasque. Ils mettent. Bon, on sait qu'athlétiquement, quand tu vois les deux joueurs au milieu, Fofana ou Camara, il y a beaucoup d'agressivité, ouais, de course. Ils sont très très bons dans les duels. Ils récupèrent beaucoup de ballons. Mais voilà, ça serait pas mal aussi du côté de Philippe Clément, voilà, qui amène un peu de fraîcheur aussi et d'autres caractéristiques de joueurs, notamment sur le plan offensif.
Il y a Jelson Martins, il y a Ben Yedder, me semble-t-il, qui s'échauffe, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de changement du côté
de
Philippe Clément.
Nous, on le voit beaucoup moins.
Ah ouais. On ne voit plus du tout quasiment.
Il impacte moins dans le jeu.
Il est plus en difficulté que lui qui avait fait une bonne première demi-heure, mais qui est un petit peu disparu. D'autant que Monaco est, me semble-t-il, dans le top 5 européen, l'équipe où les remplaçants apportent le plus depuis le début de cette année 2023. Déjà 6 buts marqués par des joueurs rentrés en cours de match pour l'AS Monaco. Forcément, quand on voit la qualité du banc, c'est pas vraiment surprenant. Attention à ce bon ballon pour les Auvergnats, là, avec Alvina sur le côté droit. Il a un peu raté son contrôle et le ballon qui va sortir. Ça se joue à pas grand-chose, mais ça va sortir. Et les Monégasques vont pouvoir se dégager avec Caio Henrique. A priori, pas de changement de prévu pour l'instant du côté de Philippe Clément. Les Monégasques gèrent, ils sont pas vraiment en danger, ils mènent 2-0, ils ont fait la différence en début de partie.
Ouais, et on va revenir dans quelques instants du côté de Gabriel Montpied pour voir si Clermont va pouvoir revenir face à Monaco dans ce match. Et puis on va continuer de vous présenter les deux dernières affiches du Multi-Ligue 1 qui vous attend à 15h 14h29, restez bien avec nous avec Sepp Piocel, on revient dans un instant dans l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi. 14h31 dans l'Intégral Sport sur RMC. On vous accompagne jusqu'à 15h. On laissera la main ensuite à Christophe Cessieux. Toute l'équipe rugby pour l'avant-match du 15 de France qui défie l'Italie pour son entrée en lice dans le tournoi des 6 nations. Denis Charvet, Wilfried Templier sont à Rome pour vous faire vivre tout ça. Ce sera dès 15h, 16h pour le coup d'envoi. Et en attendant, nous, on vit la 22e journée de Ligue 1 entre Clermont et Monaco avec Damien.
Attention
Targeux.
À ce bon ballon pour les Monégasques. Diatta dans les 16 mètres. Diatta qui va centrer. Vietesca qui se rate un peu. Mbolo qui récupère. Minamino et la bonne sortie de Coffrier. Ouh là là. Si jamais Clermont revenait par miracle dans cette partie, ils vont s'en vouloir de ne pas l'avoir mise celle-là. Et attention contre Clermontois avec Jérémy Bella, repris par Camara. Bella qui est passé quand même. Il est à 30 mètres maintenant. Et le bon retour de Fofana. Mais ballon récupéré quand même par les Clermontois sur le côté gauche avec Morer qui va essayer en un contre un face à Aguilar. Il est passé. La grosse faute d'Aguilar. Très grosse faute.
Il a découpé.
Il s'est fait éliminer sur le passement de jambe Aguilar et derrière il laisse traîner la jambe. Ça sera un bon coup franc pour Clermont et le premier carton de cette partie pour Ruben Aguilar, le latéral droit. 75 minutes de jeu et une bonne occasion peut-être pour les Clermontois. Il va falloir quand même qu'ils tirent mieux les coups de pied arrêtés que ce qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant avec Kaoui. Un quart d'heure à jouer, 2-0 pour Monaco.
Ça va vite quand même, Marcel, parce que tu as une énorme occasion de Monaco et derrière Clermont qui va de l'autre côté. Mais bon, coup franc à suivre pour les Clermontois. Ça peut vite changer le visage de ce match là en cas de.
Dommage pour l'occasion monégasque parce que là, bon, c'est problème de précision, je sais même pas s'il doit pas frapper au but.
Diatta, ouais, Diatta il doit frapper, ouais,
mais
bien sûr.
Là, ouais, derrière, en tout cas, on a revu encore les qualités du jeune Morer là, sur ce passement de jambe. Et c'est un bon coup franc, en tout cas, pour Clermont.
Et
pour
je suis heureux ça avec toi, Damien.
Pour son premier match en Ligue 1, il est toujours là, hein, quart d'heure de la fin, Morer, et ça a l'air d'aller physiquement. Le coup franc, donc, à venir, alors que Komnen Andrić est en train de se préparer côté Clermontois, il va sans doute remplacer Greg John Kay. À part si Pascal Gatien aligne ses deux attaquants, on va voir. Ça sera bien Kay qui va sortir le coup franc pour Kaoui. Clermont a pas vraiment été efficace dans ce domaine, c'est d'ailleurs une récurrente depuis le début de la saison. Ils sont un petit peu en difficulté dans ce secteur de jeu. Vietesca est au sol dans la surface, il y a un duel avec Mbolo, monsieur Bollinger qui appelle également Coffrier et Fofana parce que ça se chamaille un petit peu dans les 16
Mbolo,
mètres.
Mbolo, il se fait tous les défenseurs centraux, hein.
Il est là effectivement,
il met un coup d'épaule, ouais.
et le coup franc. Ils sont deux autour du ballon. Il y a le jeune Morer et puis il y a Saifedine Kawi pour ce coup franc. On est sur la gauche de la surface de réparation. Ce sera pour Morer. C'est fort devant le but. Nubel qui repousse. Coffrier peut-être. Il y a un énorme cafouillage et ils vont s'en sortir les Monégasques. Mais quelle occasion pour Clermont. C'est peut-être pas fini avec la récupération de Magnin qui écarte vers Morer qui à nouveau fait la différence. Il va essayer de centrer, peut-être d'aller chercher un corner. Au moins il est passé Morer sur le côté. Il a tenté le petit pont un peu trop gourmand là. La bonne défense et c'est le contre Monégasque maintenant avec Minamino. Le bon retour de Magnin, mais Minamino a réussi à passer le corps devant. Il y a Golovin qui est tout seul au deuxième poteau. Il essaie de lui donner Minamino. Ah, c'est un peu fort. C'est un peu fort pour les Monégasques avec Golovin quand même qui va trouver une solution avec Caio Henrique. Les Clermontois se sont replacés. Caio Henrique qui va temporiser juste à l'entrée des 16 mètres. L'appel avec ce ballon qui va être redonné à Camara. On va repasser par derrière. Côté Monégasque, ça va se calmer un petit peu. 14 minutes à jouer dans cette partie. 2 buts à 0 pour Monaco.
Non, mais cette occasion, elle est incroyable, Seb. Comment il n'y a pas but pour Clermont là?
Ouais, bah, on...
Gaffouillage total.
Ouais, en fait, c'est des joueurs proches de Nubel qui ont été surpris. Après, le coup franc, il est plutôt bien tiré parce que déjà, il est cadré. Et là, c'était vraiment l'occasion pour Clermont. Pour
au parfait moment, après, parce qu'il restait du temps aussi derrière pour mettre la pression sur Monaco. Et à la sortie du jeune Morer, Damien.
Ouais, standing ovation. Les gens se sont levés devant moi parce que c'est vrai qu'à 18 ans, il a fait une belle performance. Et il sort à la 77e, remplacé par Mehdi Zéphane. Et du coup, Alvina, qui était piston droit, va passer joueur milieu offensif derrière Andrich, qui a remplacé Greg John Kay. Et côté monégasque, toujours pas de changement du côté de Philippe Clément. Il reste 12 minutes dans cette partie 2 à 0 pour Monaco.
Allez, 14h35 sur RMC. Tout de suite, c'est l'heure du défi hippique.
RMC. Le défi hippique.
On va retrouver Dimitri Blanc-L'Œil en direct de Vincennes. Salut Dimitri.
Salut Flora, salut Sébastien, bonjour à tous. Alors si ça résonne c'est normal, hein. Je suis dans les travées de Vincennes avec notamment le couloir à côté de moi. Enfin bref, c'est comme ça, c'est les journalistes, hein. on est un peu partout. Le défi hippique aujourd'hui, bah, écoutez, le quintet c'est à 15h15, c'est dans pas longtemps, hein, avec notamment une belle épreuve, c'est le prix de l'Île-de-France. Ils sont 13 à s'affronter dans cette course et j'accueille tout de suite au 32-16, c'est Christophe qui est avec nous. Salut Chris.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors Chris, est-ce que tu vas faire petit bras et tu vas choisir la favorite ou tu vas choisir une autre candidature?
Ah, Dimitri, je vais faire petit bras. Je pense que Grand Villesse Bleu, en l'absence de Flamme du Goutier, va s'imposer dans ce prix d'Île-de-France. Donc c'est ma favorite, numéro 13, dans ce quintet.
Ok, bon, écoute, tu me laisses pas trop le choix. Donc je vais essayer de prendre une opposition de taille. Je vais quand même prendre le numéro 11, Zaren Fass, qui a terminé déjà pas très loin de Grand Villesse Bleu dans la course de référence sur ce même parcours. Donc je pense que Zaren Fass peut essayer de venir taquiner Grand Villesse Bleu. Donc je rappelle la règle, hein, pour ceux qui nous écoutent, si ton numéro 13 dans le quintet termine devant le numéro 11, tu reviens une nouvelle fois demain et ta cagnotte augmente. Voilà pour le défi hippique. On verra ça tout à l'heure, Chris. 15h15, d'ailleurs, le commentaire en direct sur RMC. On se retrouve tout à l'heure, Flora, Sébastien, pour le quintet en direct de Vincennes.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allez, la 22e journée de Ligue 1, on le suit en ce moment. Monaco mène 2 à 0 hein, sur la pelouse de Clermont. Ça continue juste après à 15h avec le multiplex. On va vous présenter les 4 affiches au programme. Et on a parlé hein, tout à l'heure déjà de Lorient, Angers et puis de Strasbourg-Montpellier qui vous attend à 15h. On retrouvera aussi tout à l'heure évidemment Lorient. Donc ça, on en a parlé. Auxerre face à Reims avec Frédéric Joly. Salut Fred.
Tout le monde.
Comment ça va Fred? Du côté d'Auxerre et de Reims, la très belle série hein, des Rémois continue avec 13 matchs consécutifs sans défaite. Tout l'inverse d'Auxerre hein, finalement.
Exactement, tu as bien résumé. L'opposition entre deux équipes aux dynamiques bien différentes. Auxerre, 7 défaites consécutives. Du côté de Reims et l'arrivée de Will Steele, ça se passe beaucoup mieux avec 13 matchs sans défaite. Sans défaite, 5 victoires, 8 nuls. Elle est impressionnante cette équipe rémoise. Elle est en train de faire une remontada dans ce championnat de Ligue 1. Alors on va voir si évidemment les Rémois vont continuer cette belle série, si les Auxerrois vont se décider à stopper la leur bien négative et ces 7 défaites consécutives. À noter que on a fait quelques modifications du côté d'Auxerre puisque c'est Ablin qui est titularisé à la pointe de l'attaque et non pas Niang. L'apparition de Massenko sur le côté droit, le joueur formé à Monaco prêté par Bristol. Et puis évidemment du côté de Reims, Balogun, le meilleur buteur rémois et de Ligue 1 d'ailleurs avec 14 réalisations, sera lui à la pointe de l'attaque rémoise. Voilà pour les quelques infos concernant ce Auxerre-Reims dont le coup d'envoi sera évidemment prévu à 15h.
Ouais, cette équipe rémoise, elle est étonnante aussi. On parlait de Clermont tout à l'heure qui est sur une très belle série, qui a quasiment validé son maintien. Reims, là, c'est pareil, c'est incroyable ce qui se passe hein, du côté rémois.
Et pour le coup, là, l'adjoint est resté, mais ouais. C'est un peu différent parce que c'était il n'est pas arrivé avec le coach. Et puis bon, après on peut pas non plus généraliser, mais c'est vrai qu'il a apporté autre chose. Il y a un peu de réussite, mais c'est une équipe vraiment entre guillemets très chiante à jouer. Mm-hmm. C'est-à-dire que même quand ils sont menés,
ils lâchent rien.
Et puis bon, ils ont un joueur aussi, Balogun, qui aujourd'hui marche sur l'eau. C'est une belle découverte pour ceux qui ne le connaissaient pas. Mais voilà, donc c'est une équipe en confiance, tout au contraire d'Auxerre qui a beaucoup de mal malgré le changement d'entraîneur. C'est une équipe qui a essayé de faire un mercato actif. À Abline, moi j'aime beaucoup, donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que voilà, c'est très compliqué hein, pour les Bourguignons. Ils encaissent beaucoup de buts aussi. Mais c'est un match peut-être aussi à domicile hein, qui peut permettre de relancer une dynamique.
Auxerre à Reims, ça retrouve un 15h dans le multi. Merci beaucoup Fred Joly, on te retrouve évidemment tout à l'heure pour commenter ce match. Ce sera aussi dans le multi Ligue 1, Ajaccio Nantes. Salut Jean-Philippe Scapula.
Bonjour, bonjour à tutti.
Nantes avance au ralenti hein, en ce moment, une seule victoire sur les 4 derniers matchs, alors qu'Ajaccio a retrouvé des couleurs, et tout ça en plus sur fond de tension entre les supporters.
Ouais, on va commencer par un petit mot de contexte hein, parce que l'arrivée au stade de la Brigade Loire, enfin en tout cas de la petite trentaine de supporters nantais, s'est fait sous escorte policière. On a quasiment recensé un fourgon de gendarmerie pour chaque supporter. C'était assez impressionnant. Je vous rappelle qu'hier soir dans le centre-ville d'Ajaccio, il y a eu des heurts entre cette trentaine de supporters nantais et quelques supporters ajacciens. Voilà, il y a eu quelques saccages en centre-ville. Alors c'est toujours des images détestables. Et du coup, les services de sécurité on avait renforcé un petit peu les dispositifs à l'arrivée du stade. Ça a retardé notamment l'entrée au stade de certains supporters, y compris de la presse, parce que je me suis moi-même retrouvé bloqué dans un cortège avec mon petit scooter. Donc, mais bon, on est en place pour ce match. Alors concernant le match, moi je vais pas vous promettre un grand spectacle aujourd'hui pour plusieurs raisons. Vous le disiez, Nantes tourne un petit peu au ralenti, surtout Nantes ne marque très très peu. Et Ajaccio est la plus mauvaise attaque de son championnat. Alors vous allez me dire, c'est pas sexy, c'est pas une bonne manière de vendre.
Non, là tu nous as pas vraiment enchanté.
Alors on va attendre que les spirales soient rompues, parce que oui, vous le disiez, du côté de Nantes, on avance un petit peu au ralenti. Certes, on ne perdait pas depuis la reprise, depuis le retour de la Coupe du Monde, avant le match de l'OM contre l'OM mercredi. Mais voilà, le résultat de l'OM est venu un petit peu ternir le bilan du 11 de Comboiré. Sur les 6 derniers matchs, Nantes, c'est 4 matchs sans marquer et simplement 4 petits buts. Alors que du côté d'Ajaccio, après la débâcle, comme quoi il peut y avoir des buts dans les matchs de la CA, la débâcle à Monaco, 7-1, c'est allé un petit peu mieux dans le contenu contre Lyon dimanche dernier. Malgré la défaite, et ce mieux s'est confirmé à Angers avec cette victoire très 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 importante à la dernière seconde avec ce but d'Ali Drissi. Donc les dynamiques sont un petit peu inversées. Défaite de Nantes contre l'OM mercredi, victoire d'Ajaccio à Angers. Reste à voir si les Ajacciens vont confirmer aujourd'hui. Ils en ont bien besoin.
Ouais, attention pour Nantes dans ce match, Seb, parce que là, en cas de défaite, c'est un adversaire direct dans cette course au maintien. Ça pourrait faire mal au classement.
Ouais, c'est un match compliqué. Bon, ils ont pris de l'or, donc ils retrouvent Ajaccio exprès pour.
Grand
pour
soulagement dans les travées de François Coty, on dit de l'or et remplaçant.
Ah, d'accord, ok. Ouais, il va certainement rentrer même. Donc, mais c'est vrai que pour les Nantais, ils sont assez inoffensifs hein, depuis quelques matchs. Pareil, il y a eu quelques mouvements, donc quelques arrivées. Donc le temps que tout le monde prenne ses marques. Mais en tout cas, c'est un match hyper important. Ajaccio, quoi qu'il arrive, ils étaient préparés. On sait qu'ils vont batailler jusqu'au bout. C'est une équipe avec une âme. Pour le coup, là, il n'y a pas eu de changement d'entraîneur à Ajaccio et c'est pas prêt d'arriver. Donc, certes, il y a eu deux défaites d'affilée à domicile et notamment la dernière contre Lyon. Mais cette victoire, la dernière seconde à Angers, même si tout le monde bat Angers en ce moment, mentalement, elle doit faire du bien au niveau comptable aussi. Ouais. Mais c'est déjà un match charnière pour les Corses face à Nantes.
Ouais, ça promet hein, dans ce match, lutte pour le maintien évidemment. Merci beaucoup Jean-Philippe, on te retrouve tout à l'heure 15h pour le coup d'envoi de ce Ajaccio-Nantes, le coup d'envoi du multiplex Ligue 1 à 15h à suivre évidemment sur RMC avec Christophe Cessieux. La Ligue 1, on la suit en ce moment dans l'intégral sport, la 22e journée. Monaco qui tient pour le moment sa victoire face à Clermont, Damien Tardieu, avec du changement hein, pour les Monégasques.
Enfin, le
premier changement opéré par Philippe Clément. 5 minutes à jouer, 2-0 pour Monaco. La rentrée de Kevin Volland à la place de Minamino qui avait pris un carton juste avant, une faute sur Magnin. Il y aura sans doute pas de Ben Yedder parce qu'il ne s'échauffe pas. L'international français, attention au contre là avec les Monégasques, avec Volland qui écarte sur le côté droit, avec Crépin Diatta qui va se retrouver en 1 contre 1 face à Neto Borges. Diatta qui va rentrer sur son pied gauche, la frappe elle est topée et elle sera captée sans problème par Moridio. Les Monégasques donc qui pour l'instant font la bonne opération, se rapprochent du top 3 et enchaînent une nouvelle victoire, la 7ème cette saison déjà à l'extérieur pour les hommes de Philippe Clément qui ont fait la différence dans le premier quart d'heure. Depuis ils gèrent, c'est moins flamboyant que le premier quart d'heure, ils ont laissé la balle aux Clermontois, des Clermontois qui essaient mais qui sont encore une fois trop inoffensifs dans cette partie, c'est trop compliqué. 2-0 pour l'AS Monaco face à Clermont. Attention là à Kawi qui va essayer de solliciter dans la profondeur Alvina, mais la bonne intervention des Monégasques, et c'est Disasi qui va pouvoir remettre.
Il n'est pas joué dans le couloir avec Borges là, qui s'était un peu engagé là. Il y avait de l'espace complètement à gauche pour Kawi. Ouais,
effectivement, il a préféré l'appel de Alvina. En tout cas, 4 minutes à jouer dans cette partie, 2-0 pour Monaco ici à Clermont.
Ouais, Seb, on va aussi rappeler les chances à venir pour Monaco. On en a parlé de ce match face au PSG samedi prochain à 17h. Là, il s'agit aussi peut-être pour Philippe Clément de limiter un petit peu les risques sur ses joueurs clés, faire des changements pour éviter des blessures et capitaliser pour ce match face au PSG samedi prochain.
Ouais, le truc c'est que oui, on l'a dit tout à l'heure, il joue pas en semaine, donc il peut se permettre de...
Attention avec ce bon ballon pour Volland qui va frapper, qui va marquer. Il y a hors-jeu comme d'habitude. Les arbitres attendent évidemment le dernier moment pour lever, est-ce que ça sera vérifié tout ça. Volland qui avait été servi dans la profondeur,
il semblait un peu hors-jeu quand même.
Ouais, il était bien seul en tout cas. Il est hors-jeu même s'il y a Ogier qui traîne hein, quand même. Là, il est pas loin, Ogier.
Il a quand même la qualité de Volland devant le but.
Ouais. Ah oui, il se pose pas trop de questions. Il regarde même pas le but, il tire, il sait très bien où c'est.
Ouais, non, je disais que c'est comme il rejoue que la semaine prochaine, donc il n'y a pas de match en semaine comme le Paris Saint-Germain. Bah, il peut se permettre de laisser.
Attention à Magnin dans les 16 mètres pour Alvina. La frappe d'Alvina. Oh, elle est à côté. Quelle occasion. Incroyable. Il était seul au point de pénalty. Jim Alvina, il rate le cadre. C'était l'occasion d'enflammer cette fin de match pour les Clermontois. Elle est ratée. La meilleure opportunité des Auvergnats, clairement, dans cette partie. 88e. Monaco a eu chaud, mais Monaco peut ambitionner de s'imposer toujours. 2-0 pour les Monégasques.
Ah, j'ai envie de dire, s'il marque pas là, c'est que voilà, non, ça devait se passer comme ça. Il y a eu un peu de réussite là pour Magnin. Après, derrière, le bon décalage et
il est
quasiment en point de
pénalty.
Ouais, je pense qu'il doit ouvrir son pied.
Mais oui.
Là, il apprend un peu coup du pied, donc il a croise Vétro. Alors que le petit plat du pied,
sécurité.
De l'autre côté, voilà, exactement.
C'est bien, on est raccord, Damien.
Ouais, c'est les poncifs, les classiques, mais il a peut-être pas choisi la bonne surface. Jim Alvina qui manque d'efficacité. Il a eu du mal, lui, à passer entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Il était vraiment feu follet et il était très décisif en Ligue 2. Et depuis la saison dernière, en Ligue 1, il fait des matchs plutôt bons, hein, globalement. Mais c'est vrai qu'il n'a mis qu'un but depuis le début de la saison. Et l'année dernière, il n'en avait pas mis beaucoup non plus. Il avait marqué à Marseille. Mais c'est à peu près tout. Et là, il rate une énorme occasion. Il y a une faute là sur Mbolo qui était revenu défendre. Et les Monégasques vont pouvoir se dégager. Une minute dans le temps réglementaire. 2-0 pour Monaco.
On va voir combien il y aura de temps additionnel dans ce match, SM. Mais c'est vrai que là, s'il y avait but de Clermont à ce moment-là, on aurait un petit peu vibré dans cette fin de match.
Ouais,
là, c'est dans la gestion
bien,
pour Monaco.
Il y avait déjà eu tout à l'heure l'occasion avec le coup franc relâché par Nubel. Il y avait l'opportunité pour marquer. Là, de nouveau, cette position là avec Alvina pour faire le 2-1. Là, à mon avis, ça va être compliqué pour venir à Alvina. C'est vrai qu'avec ce système-là, il joue plus piston.
Ouais,
je pense que c'est un joueur qui a besoin d'avoir de l'espace devant lui, qui peut faire mal. Là, en étant un peu plus haut, on a un peu plus de mal à le trouver. Il a peut-être un petit peu moins de repères. Et il se retrouve moins devant le but. Ça explique peut-être pourquoi il a pas le bon geste là sur cette occasion.
Même si là c'est il joue un peu plus haut hein, depuis l'entrée de Zéphane.
C'est pour ça, je parle de repère. Il joue un peu moins à ce poste-là actuellement.
Effectivement. Il y a un deuxième changement côté Philippe Clément, alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel dans 20 secondes. C'est Crépin Diatta qui revenait de blessure, qui est sorti, remplacé par Gelson Martins qui s'est échauffé toute la deuxième mi-temps. Gelson Martins, là, au moins, il est chaud, il n'y a pas de problème. Et on va voir combien de temps additionnel sera donné. Le ballon est au milieu de terrain avec Camara qui va orienter tranquillement pour les Monégasques vers Ruben Aguilar qui va chercher Gelson Martins, son premier ballon. Gelson Martins, c'est la bonne récupération de Neto Borges qui vraiment monte en pression.
depuis son arrivée. Il avait connu un début de saison plutôt moyen et là il est très bon, le latéral gauche brésilien, mais il a perdu le ballon là, et le contre monégasque avec Gelson Martins qui va trouver Aguilar. Aguilar qui est à l'entrée des 16 mètres, le ballon est contré par Coffrier qui est revenu. Ça sera un corner pour Monaco, 4 minutes de temps additionnel. On vient de rentrer depuis 20 secondes dans ce temps additionnel, 2-0 pour Monaco qui va donc venir s'imposer comme l'année dernière. Ici ils avaient gagné 3-1, cette fois ça fait 2-0 et les monégasques vont se rapprocher du podium et mettre la pression à Lens. Évidemment les Lensois qui joueront un petit peu plus tard cet après-midi. Corner à venir pour Caio Henrique pour l'AS Monaco. Évidemment il prend tout son temps, il trottine tranquillement pour venir frapper ce corner. On va sans doute le jouer à deux d'ailleurs avec Golovin qui s'approche. Les Clermontois, ils ont un peu la tête baissée là, on sent qu'ils y croient plus vraiment. Ils n'auront pas livré un mauvais match, mais ils se sont fait piéger en début de partie, eux qui étaient solides ces derniers temps. Ils ont pris deux buts quasiment sur les deux premières actions monégasques et forcément ensuite c'est plus facile. Attention à ce corner et le ballon qui a été retouché, ça sera un nouveau corner pour l'AS Monaco. Il reste 3 minutes dans le temps additionnel, ce sera à nouveau pour Caio Henrique qui va à nouveau prendre tout son temps. Côté monégasque, Dizazi est quand même monté hein. On a fait monter la défense centrale. Côté monégasque, Maripane aussi, dont on connaît la qualité du jeu de tête. Caio Henrique, son pied gauche, le ballon pour Mbolo et ça sera sorti par les Clermontois qui vont repartir en contre. Mais Bella l'homme est bien trop profond pour Jim Alvina, ça sera récupéré tranquillement par Golovin. Il reste 2 minutes 30 dans cette partie, 2-0 pour l'AS Monaco ici à Clermont.
Ouais, toi, Seb, t'es comme Damien, tu penses que la victoire, la monégasque, elle est acquise dans ce match, tu vois pas clairement revenir, là.
Non. S'il y avait eu.
S'ils avaient dû revenir, en tout cas, fallait le faire bien avant, ça, c'est
là,
sûr.
Là, bon, maintenant, il reste deux minutes, bon, ils sont quand même loin de leur but.
Il y a quelques regrets quand même à avoir pour Clermont dans ce match, parce qu'il y a eu quelques opportunités qui auraient pu être plus tranchantes,
ouais,
finalement.
Ouais, sur le film du match. Alors après, ouais. Monaco a géré, je pense, quand tu marques deux buts assez rapidement.
La victoire est méritée,
voilà,
oui.
Tu joues pas forcément de la même manière, t'as même besoin de te livrer. Donc ils ont laissé le ballon, on l'a vu d'ailleurs dans les statistiques, ils ont laissé le ballon un peu plus au Clermont.
Oh, attention, la tête d'Andrić, il a une détente, Andrić, il est pas très très grand, mais là, magnifique tête et sans problème finalement pour Nubel. Pour les stats, ça fera quand même un tir cadré supplémentaire pour les Clermontois qui peinent dans ce secteur. C'était pas mal joué là avec le coup franc de Zéphane. Et attention contre Monégasque maintenant. On est carrément de l'autre côté avec Gelson Martins qui attend le dédoublement de Aguilar. Il va revenir intérieur. Il va tranquillement repasser par Aguilar. Ils vont gérer les Monégasques. 1 minute 30 à jouer, 2-0 pour les hommes de Philippe Clément.
Je disais, le fait d'être devant assez rapidement et notamment avec deux buts d'avance, bon, ils ont quand même géré. Même s'ils ont, on l'a vu à une période, ils ont essayé de marquer le troisième but, mais ils ont pas. Voilà, ils ont eu plus de facilité pour gérer leur match.
Bon. Effectivement. Et Clermontois, ils auront sans doute le regret de prendre ce but déjà dès la troisième minute. Forcément, ça met pas forcément dans des bonnes conditions. But un peu malheureux en plus avec Vetiaska contre son camp. Et ils avaient contesté en plus hein, la faute de Morer sur l'action qui amène le but. Et puis ils prennent le deuxième immédiatement. Donc effectivement, derrière, c'est compliqué, surtout quand une équipe comme Clermont a quand même bâti sa réputation cette saison sur une solidité défensive. Hein. C'est pas l'équipe qui marque le plus de buts. Ils peinent à se créer des occasions, mais globalement, ils sont solides. Ça n'a pas été le cas dans le premier quart d'heure. Ils l'ont payé cash, tout simplement. Les Clermontois, il reste 30 secondes dans cette partie, le long dégagement de Moridio. Impeccable, Dizazi, le vice-champion du monde qui intervient à bon escient là, et ça sera un coup franc pour les Clermontois, 40 mètres début. Les Auvergnats qui donc vont se retrouver face à un nouveau défi la semaine prochaine ici au Montpied, avec la tentative peut-être là d'Andrić. Les Clermontois qui affronteront Marseille. Kawi à l'entrée des 16 mètres, la frappe de Kawi et Nubel. C'est pas très académique là, un peu à la manière d'envoyer le layer. Il a failli se faire surprendre sur cette tentative de Kawi, et il va tranquillement pouvoir garder le ballon. Et c'est terminé, monsieur Bollinger siffle la fin du match. Victoire de l'AS Monaco, la 7e victoire cette saison à l'extérieur pour les hommes de Philippe Clément. 2-0, Vietesca 3e contre son camp, Mbolo 13e. La messe était dite au bout d'un quart d'heure, et Clermont qui chute pour la première fois en 2023. Monaco met la pression sur Lens, sur l'OM, en attendant les matchs de cet après-midi et de ce soir.
Ouais, c'est bien l'essentiel hein, Seb, dans ce match pour Monaco, c'est revenir voilà, un petit point du podium et de Lens qui joue tout à l'heure.
Ouais, c'est mérité pour les Monégas qui ont su marqué rapidement, ils ont bien géré leur match. En face, on a vu une équipe de Clermont qui s'est réveillée un petit peu tard, qui a manqué l'occasion aussi de revenir dans le match et de mettre un peu de pression à cette équipe de Monaco. Et bon, sur l'ensemble de la partie, voilà, on sent une équipe de Monaco quand même en pleine confiance, avec des individualités notamment offensives qui peuvent faire mal. Et voilà, bah, on sait que pour eux, il y aura ce match face au Paris Saint-Germain samedi prochain. Ils vont pouvoir le préparer tranquillement et pourquoi pas faire tomber les Parisiens.
Merci beaucoup Seb pour ce match, cet Intégral Sport. Dans quelques instants, ça continue évidemment sur RMC. Vous allez retrouver Christophe Cessieux pour l'avant-match de l'événement du jour, le 15 de France qui défie l'Italie à Rome pour son entrée en lice dans le tournoi Destination. Ça à vivre évidemment à 16h sur RMC.
RMC Intégral Sport.